Ok, donc on va faire Bezrat Hashem, notre
c'est la fin de ce
troisième cours sur le chapitre 25, la lettre 25, chez Morazaken, sur le thème de la colère. Qu'est-ce qu'on a pu expliquer jusqu'à maintenant? Donc là, on a déjà fait deux cours dessus. Premier cours, on a expliqué, il a ramené ce que le Baal Shem Tov dit, en fait, qui est basé sur une Gemara. La Gemara nous dit que Kol HaKoes Keilu Oved Avodah Zara. Celui qui s'énerve, c'est comme si il fait Avodah Zara. On a ramené ce qui était écrit dans le... Enfin, ce qu'on appelle le testament du Baal Shem Tov, mais en fait, il n'y a pas de testament du Baal Shem Tov, comme ce qu'on a expliqué. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il explique là-bas la chose suivante. Il dit que pourquoi on dit que lorsqu'une personne s'énerve, c'est comme si il fait Avodah Zara? Parce que, en vérité, quand je m'énerve, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de me dire que ce qui m'arrive n'est pas normal. J'estime que ce qui est arrivé n'est pas normal. C'est pas quelque chose de logique. D'accord? C'est pour ça que je m'énerve. Quelque chose qui m'a énervé. Mais en vérité, te dit l'Admor Hazaken, au nom du Baal Shem Tov, tu dois te dire que tout ce qui t'arrive vient d'Akadosh Baruch Hu. Et pas seulement ça. Là, il a poussé le bouchon très loin. Il a dit, même l'énergie qu'il y a dans la bouche de la personne qui est en train de t'insulter, l'énergie qu'il y a dans la main de la personne qui est en train de te frapper, qui sait qui lui met cette énergie dans la main? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il lui demande, Akadosh Baruch Hu, c'est en fait Akadosh Baruch Hu qui est en train de te frapper. Ah, dans ce cas-là, pourquoi il va être puni? Alors, ça, on a expliqué la semaine dernière. On a dit, il va être puni parce que, concrètement, il a décidé d'être lui le chaliard d'Akadosh Baruch Hu pour faire le mal. Et si c'était pas lui, ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Ça, donc, on a expliqué la semaine dernière. On a expliqué aussi la semaine dernière. On a dit que, en vérité, quand on réfléchit, pour rappeler, ça, c'est la semaine dernière. On avait expliqué qu'il y a une grande différence entre les philosophes et notre Emouna. Qu'est-ce qu'ils disent, les philosophes? Les philosophes, ils disent, une fois qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, le monde, ils tombent tout seuls. Mais nous, on sait qu'en vérité, c'est pas comme ça. Qu'en vérité, chaque instant, chaque chose qui tourne dans le monde, qui sait qu'il fait tourner? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tourner, la personne qui est en train de m'insulter à ce moment-là, qui sait qu'il est en train de l'alimenter, qui sait qu'il est en train de la faire tourner à cet instant-là, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, avec tout ça, on a expliqué longuement qu'on doit savoir que la création du monde, en vérité, c'est un événement qui est beaucoup plus marquant que la traversée de la mer aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué, ça va? Bonsoir.
Le concept d'éternité.
Parce qu'il y a un concept d'éternité et qu'il y a un concept de création. D'accord? Oh, ça va. J'ai l'étonné là-bas. Donc, c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière et il y a deux semaines. Ok, vas-y. Alors maintenant qu'on a expliqué ça, bon, ça je vous ai fait un topo rapide, puisque ça en vérité on l'a déjà bien développé, le concept que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et que même l'énergie qu'il y a dans la main de la personne qui est en train de me frapper vient d'Akadosh Baruch Hu, parce que rien ne peut être généré dans le monde sans Akadosh Baruch Hu. C'est pas comme ce que les philosophes pensent, qui pensent que une fois que Dieu a créé le monde tombe tout seul. Bon. Maintenant, le thème qu'on va parler aujourd'hui maintenant, donc apparemment, il faut jamais s'énerver. Est-ce que la Torah pense qu'il faut jamais s'énerver? Avant d'avancer, je vous pose la question. Est-ce que d'après vous, il y a des cas dans lesquels il faut s'énerver? Qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a des cas où tu dois, il y a d'autres où tu es censé te contrôler.
Il y a des colères saines.
Qui sont bonnes. Bonne question. Bah, c'est un très bon point ce qu'il dit.
Ah, c'est ce que je t'ai tout
à l'heure. D'abord, il faut définir qu'est-ce que c'est une colère.
Si c'est pour la...
Parce que, par exemple, on dit que des fois, quand un maître, il sent qu'il n'est pas écouté par ses élèves, ou quand un père, il sent qu'il n'est pas écouté par ses enfants, il doit faire comme si qu'il est énervé.
C'est ça.
Donc là, on a encore un nouveau paramètre, faire comme si. C'est-à-dire que des fois, je ne suis pas énervé. Mais je veux faire comme si que je suis énervé. D'accord? Alors, comment ça marche?
On dit, si tu veux vraiment que je sois énervé, tu vas voir la différence. Alors là, c'est...
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut s'énerver ou on peut pas s'énerver?
S'il s'agit de mieux capter l'intention des personnes ou du public, ce que tu veux, des fois ça peut être ça. Mais il faut en même temps, il faut maîtriser.
Alors, générer un éveil pour arriver jusqu'à corriger une faute.
C'est quand tu n'es pas dominé par ta colère. Si ta colère te domine,
Si elle est destructrice, elle n'est pas bonne. Si elle est créative, elle est bonne.
Bon, alors regardez ce que va dire mon argument. On va prendre maintenant, c'est un bon point, c'est tout ce que vous dites, c'est des bons points. Non, on va essayer de développer ça ensemble. Je suis à la page 281. Quatre lignes avant la fin de la page.
Ah, je t'ai bien dit quatre lignes avant la fin. C'était pas la bonne page.
Vahar, advarim, vehemet ha'ele. Après, toute cette vérité, toutes ces paroles qu'on a dit, agluim vayudim lakol. Maintenant, on a bien compris. On a compris des paroles qui sont dévoilées, qu'on a bien compris que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Narzor l'inyan rishon. On va revenir à notre premier sujet. Beinyan akas, à propos de la colère. Sheu ke oved avodazara, on a dit que la colère, celui qui s'énerve, c'est comme si qu'il faisait Avodazara. Mazal tov pour le livre.
pas la même édition.
D'accord. Donc Sheukoved Avodazara, que celui qui s'énerve, c'est comme si qu'il fait Avodazara. Alors attends, je vous donne la page.
T'as des commentaires en français là-bas, David?
Ouais.
T'as été à Martin l'acheter?
Traduit comment c'est?
Ouais.
Tu veux le mettre?
Bah si j'avais su, j'aurais. Oh, c'est pas grave, j'irai, hein. Je suis en vacances, donc je peux.
Voilà.
Me déplacer.
Page 102 ici, dans ce livre traduit. Donc, Beinyan Akash et Ukoved Avodazara. On a expliqué à propos de la colère c'est considéré comme l'idolâtrie. Mais il te dit attention. Vaïnou Bemile de Alma. Dans quel cas on t'interdit de t'énerver, on dit que tu ne dois pas t'énerver, c'est seulement Bemile de Alma dans les choses du monde, ça veut dire dans ce qui n'est pas lié au mitzvot, ni à une mitzvah, ni à une avera. Par exemple, d'accord?
Travail.
Je sais pas, moi, je. Voilà, je.
Le travail.
D'accord? Le travail, c'est un truc qui s'est passé, qui n'est pas lié à Minza ou Navera, d'accord? C'est un truc qui s'est cassé, qui n'est pas lié ni à Minza ni à Navera. Sans on te dit ne t'énerve pas. Et même s'il y a une personne qui te l'a cassé, la personne qui te l'a cassé a été guidée directement par Akadosh Baruch.
Les enfants, d'accord. Tu ne dois pas t'énerver contre tes enfants.
Ok. Donc, c'est ce qu'on a expliqué ici. Hein, je continue. Il dit maintenant, dans quel cas on t'interdit de t'énerver, c'est seulement dans ce qui est mille idéal, c'est-à-dire ce qui est les choses du monde. Quand c'est les choses du monde, bonsoir.
Je suis venu pour Mitra, mais je vais rester.
Ah, Mitra c'est déjà passé, avec plaisir. Vaïnou, ben mille idéal. Donc il dit, ça, c'est, dans quel cas on a dit que on doit savoir que tout nous vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est seulement Bemil et des Alma, ça veut dire dans les choses du monde, dans les choses de la vie de tous les jours. Là, qu'est-ce qu'on va te dire? On va te dire, ne t'énerve pas, ça vient d'un Kadosh Baruch Hu. La reine, c'est pour ça, Bemil et Dishma, il y a la frouche et Meisura, l'osh ayachaitama de Amaran. Quand maintenant tu vois quelqu'un qui fait quelque chose à l'encontre de la volonté de Dieu, là tu ne peux plus appliquer la raison qu'on a dit, ne t'énerve pas, ne lui dis rien, parce que sache que ça vient de Dieu. Non! Quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, là c'est clair que, je n'ai pas dit qu'il faut s'énerver, mais il faut faire une remarque. Avec ça, il va expliquer une chose. Il dit, regardez, comme c'est écrit dans la paracha Matot, hein, voilà,
ah bah, on y en paracha
cette semaine, c'est écrit, « Vaïktsof Moshe ». Dans la paracha cette semaine, on nous dit qu'à un moment, Moshe Rabbeinu s'est énervé. « Ketsef » en hébreu, ce n'est pas simplement une colère, c'est une grande colère. Comment on peut comprendre que Moshe Rabbeinu s'est énervé? Il n'a pas gardé son sang-froid? Paracha cette semaine.
Mais c'est pas énervé qu'une seule
d'accord.
fois.
Non, mais là, non, d'habitude, on ne dit pas que Moshe Rabbeinu s'énerve. D'habitude, on dit que Moshe Rabbeinu dit quelque chose. Des fois, Dieu s'énerve.
Quand il a frappé
c'est très rare.
L'Égyptien.
Mais jamais on mentionne le nom énervé. Très rare. Non. Jamais. Le mot énervé, jamais. Il fait ce qu'il a à faire. Mais jamais on mentionne le mot énervé. Là, dans notre paracha Matot, on mentionne le mot Vaïktsof Moshe. Moshe Rabbeinu s'est énervé. Pourquoi? Comment on peut expliquer que Moshe Rabbeinu s'est énervé? Si c'est énervé, ça veut dire qu'il a perdu le contrôle de sa personne. C'est pas bien de s'énerver. C'est pas normal. Alors qu'est-ce qu'il explique? Il dit non. Il dit Vaïnu Mishum ki Hashem ikra lefanav mitzvazo la frouche meisura. Il dit pourquoi Moshe Rabbeinu s'est énervé? Je crois dans Chumash, je vais vous lire le passage de la parasha de cette semaine. Pardon. Il dit pourquoi Moshe Rabbeinu s'est énervé dans la parasha de cette semaine? C'est parce qu'il devait s'énerver. Et de là, on va voir, pour répondre à la question de David, que des fois, non seulement qu'on peut s'énerver, mais des fois, au contraire,
on doit
s'énerver. Mais attention, ça va prendre avec des pincettes ce que je veux dire. Donc, c'est dans Parasha Matot, Perek Lamed Alef, Pasuk, Yud Dalet. D'accord ? C'est au tout début de la Parasha. Voilà. Dans le chéni de la Parasha, ici. Alors, on est parti en guerre. Vous connaissez l'histoire, on est parti en guerre, parce que, en fait, au début, on devait tous partir en guerre. Après, il y en a qui ont dit, mais nous, on veut rester. Il y a eu Gilad et Menaché qui ont dit, nous, on préfère rester. Benegad et Benerouven, pardon, qui ont dit, on préfère rester, nous, en dehors de l'Israël. Concrètement, comment ça a arrangé? Tout le monde va participer à la guerre, d'accord? Mais ils pourront laisser entre-temps leurs femmes et leurs enfants en dehors de l'Israël. Bon, ça a arrangé, peu importe. Après, il y a eu la guerre. Moshe Rabbeinu, il leur a dit la chose suivante. Il leur a dit, vous devez tuer tout le monde. Il y a eu une guerre particulière, d'accord? Il y a eu une guerre qu'on nous raconte ici, au tout début, vous lirez dans le chéni de cette paracha. Moshe Rabbeinu, il leur a dit clairement, il leur a dit, vous devez tuer tout le monde, peu importe pourquoi, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, dès qu'il a eu les résultats de la guerre, il s'est rendu compte que ça ne s'est pas passé, comme il l'avait demandé. En vérité, Moshe Rabbeinu, il n'a pas inventé, c'est Akadosh Baruch Hu qui avait demandé. Alors là, on lit dans le chéni de la paracha cette semaine, je vous lis, Vaik tsof Moshe, Moshe Rabbeinu s'est énervé. Il dit même ici se mit en colère. Al pekoudé Echaïl, contre le commandant de l'armée, Saré à la fim, Vesaré à Meot, d'accord, sur les chefs de 1000, les chefs de 100, Abaï mitzvah milchama, quand il les a vus revenir de la guerre. Vayomer Alem Moshe, Moshe leur a dit, mais quoi, vous avez laissé les femmes en vie, vous avez gardé les animaux, parce que eux, ils ont voulu, bon, ils n'ont pas fait exactement ce qu'on leur a demandé. C'est une des rares fois dans la Torah où on nous dit que Moshe Rabbeinu s'est énervé. Pourquoi il s'est énervé? Qu'est-ce qui, pourquoi tout d'un coup il s'est énervé? D'habitude, il dit ce qu'il a à dire. Il dit, je suis pas content, il dit, il faut faire ci, il dit, il faut faire ça, mais il s'énerve pas. Quand quelqu'un s'énerve, ça veut dire, a priori, qu'il a perdu le contrôle de soi-même. Explique ici la Dvar HaZaken, pourquoi il s'est énervé. Qui Hashem ikra lefanav mitzvazo leafrushe meisura kede lezachoto. Parce que Moshe Rabbeinu s'est dit la chose suivante. Il explique l'Admor HaZaken, il dit très simple. Il dit pourquoi Moshe Rabbeinu s'est énervé? Parce qu'il a estimé qu'il pouvait encore réparer la situation. Et bien, c'est ce qu'on voit dans la suite de l'histoire. Ce qu'on a réparé en partie. Si c'est déjà trop tard, ça y est, le mal est déjà fait. Dans ce cas-là, ça n'a rien de crié, c'est déjà fait. Là, Moshe Rabbeinu explique l'Admor HaZaken dans notre paracha. Hein, il a vu les généraux revenir de la guerre et il a vu qu'on pouvait encore peut-être récupérer, rectifier le tir. Mais il a compris que s'il allait simplement leur dire gentiment écoutez, la prochaine fois, essayez de faire mieux, ils n'allaient pas l'écouter. Donc comme il pouvait encore rectifier le tir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Mais est-ce qu'il était énervé?
Non.
Oui,
non.
Bah oui et non. Ben non, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait.
C'est ce qu'il va t'expliquer ici. C'est que des fois, on peut crier sans être énervé. Des fois, on peut être même en colère sans être énervé. C'est encore plus fort, ça.
Oui, d'accord, mais bon. Là, ils ont pas respecté.
Ça veut dire qu'on se met dans une colère.
C'était pas un ordre qu'il avait donné lui, c'était un ordre d'Hachem, il a transmis.
Mais c'est pas la première fois que les Israéliens ont transgressé un ordre d'Hachem. Pourquoi tout d'un coup, cette fois-ci, il s'est énervé? Parce que là, c'était encore récupérable.
Finalement, c'est quand tu maîtrises.
Exactement. Quand tu maîtrises plus, ça rien t'énerver. Mais quand tu maîtrises encore, des fois, t'as besoin de mettre un coup de colère pour qu'on t'écoute. D'accord? C'est pour ça que Moshe Rabbeinu l'a fait. Léa Frouché Meïsoura, parce qu'il s'est dit, si Akadosh Baruch Hu a fait que j'étais témoin de la situation alors que c'était pas encore terminé, qu'on peut encore rectifier le tir, ça veut dire que Dieu attend de moi que je fasse ce qu'il faut pour qu'on rectifie le tir. Parce que si Dieu ne voulait pas, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu faire que j'apprenne une fois que tout est terminé. Et c'est fini. Après, tu peux crier, tu cours toujours. Si Akadosh Baruch Hu a fait que j'ai appris ce qui s'est passé alors qu'on était encore in extremis, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu veut que je fasse ce qu'il faut. Donc de là, on apprend quoi? Que quand, par exemple, on a quelque chose qui se passe dans notre famille ou parmi nos amis, quelqu'un qui t'écoute, quelqu'un que tu sais que... Si c'est déjà fait, c'est déjà fait. Mais quelqu'un que tu sais que des fois, hein, il faut lever le ton. Pas être énervé, il faut lever le ton. Et tu penses que si tu vas lever le ton, ça pourra peut-être l'impressionner, ça pourra peut-être l'arrêter de faire une avéra.
Ouais, mais t'en as d'autres.
Et bien dans ce cas-là, il te dit...
Il se braque et tu peux rien faire. Hein.
J'ai compris. Attention, c'est pour ça qu'on a tout le cours aujourd'hui. Expliquez. Il dit, ah, zeu que sheyesh biado limchot. Avant de le faire, il faut être sûr que t'as une chance qu'on va t'écouter. T'as une chance qu'on va t'écouter et que le fait de parler, ça va faire plus de bien que de mal. Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, cette fois-ci, il savait qu'il pouvait le faire. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'a pas visé tout le peuple, Moshe Rabbeinu. Qui il a visé ici quand il a crié?
Les généraux.
Il a crié les généraux. Ouais. Donc il savait que les généraux, il les connaissait. D'accord? Donc il savait exactement qu'ils allaient l'écouter. Et ils l'ont écouté. Ils ont rectifié. On raconte dans la paracha après que on a pu un petit peu rectifier le tir. D'accord? On a rectifié le tir, il a dit voilà ce que vous devez faire, vous devez tuer un tel, vous devez faire ci, et voilà ce que vous allez faire avec l'ustensile. C'est-à-dire qu'on a rectifié le tir. Donc il dit ici l'Admor HaZaken, il dit de la même manière pour nous aussi. Quand on peut faire une remarque, et que des fois il faut la faire un peu de manière énergique, mais que si on ne le fait pas de manière énergique, ça passera pas, dans ce cas-là, la colère est permise. Mais avec les réserves qu'on va mettre tout de suite. Aval, mais que she'en biyado limchot. Quand c'est quelqu'un qui ne t'écoute pas, d'abord, soit parce que je pense qu'il ne m'écoutera pas, ou bien parce que je sais que j'ai déjà essayé, et ça n'a pas marché. Ou je sais que d'autres ont essayé, ça n'a pas marché. Donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien. D'accord? Alors, j'ai pas dit qu'il faut pas essayer de le ramener sur le droit chemin. J'ai pas dit ça. Mais j'ai dit, ce que je veux dire, c'est que l'aspect énergique, l'aspect, on va dire, colère, il faut l'enlever. Et c'est pour ça, concrètement, le rabbi, dans son commentaire qui est sur ça, il dit que concrètement, les cas dans lesquels on peut être sûr que la colère va marcher, c'est très très rare. Très très rare.
C'est limité. Hein, c'est...
Et d'ailleurs, même Moshe Rabbeinu, dans toute l'histoire, avec tous les scandales et toutes les galères que les Israéliens lui ont fait, il y a une fois qu'il s'est énervé. Une seule fois.
Mais finalement, tu peux utiliser le moyen de la colère ou autre que vers les gens vers, qui t'aiment.
Qui vont t'écouter.
Non, mais même qui t'apprécient quelque part.
Non, plus que ça. Non, non. Il faut penser qu'ils vont t'écouter. Ouais. Sinon, ça
rien. Le problème, c'est pour qu'ils t'écoutent, il faut que tu sois légitime et crédible, sinon ils t'écoutent pas.
Non, des fois on peut être crédible, mais des fois la personne.
Les enfants, tu peux créer, voilà, c'est légitime, mais légitimité sur d'autres personnes.
Non, par rapport. On n'arrive pas.
Ouais, mais Moshe Rabbeinu, il avait une crédibilité, il a été légitimé par Hachem, d'accord ? Et le peuple l'a reconnu en tant que.
Mais quand même, il y a des fois, donc, des fois on n'est pas prêt. Des fois on n'est pas prêt à écouter des remarques.
Et lui, il s'est énervé, oh là là, il faut qu'on fasse attention et on va écouter ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'ils ont fait.
Mais on voit que Moshe Rabbeinu ne l'a jamais fait avec le peuple. Il s'est jamais énervé.
Non, par rapport aux généraux, là, par rapport à l'épisode dont, dont on parle.
Parce qu'il a estimé que. Il écoutait encore.
Et il s'est énervé une fois, hein, de manière grave, quand il a cassé les premières tables.
Pas énervé.
Ah ouais ?
Pas énervé. La Torah ne mentionne pas le mot colère.
Pourtant, c'est.
Mais il n'y a pas le mot colère. Vous savez pourquoi il a cassé l'état de la loi ?
Ils ont fait au hasard.
Je vais vous raconter ce que dit Rashi. Rashi, il dit parce que. Il a dit. À Kadosh, maintenant qu'ils ont fait la faute du veau d'or, c'est comme une mariée qui a trompé son mari 40 jours après le mariage. Donc il a dit qu'est-ce que je vais faire ? Je vais casser le contrat de mariage. Comme ça, quand le marié va venir, il va dire oui, c'est ma mariée, elle m'a trompé. On va dire ah oui, t'es marié, donne-nous la preuve que t'es marié. La preuve, c'est la Torah. Rashi explique ça.
Ouais, mais bon, il était quand même en colère.
Non, le mot colère n'existe pas. Bon, on continue. D'accord ? Il n'y a pas le mot colère. Chaque fois, il y avait toujours un truc derrière.
Hachem ne l'a pas dit, tiens, j'ai gardé un double.
Ouais, ouais. Bon, c'est un remède, c'est une illusion.
Non, je sais,
j'ai scanné.
Tiens, j'ai gardé un double.
Après, il faut comprendre, c'est des midrashim, ça, il faut comprendre. Mais bon,
c'est vrai que
d'accord ? Aval, mais tu es dans les mots. Aval, mais... Keshen Beyado, alors...
Que je retrouve.
Donc, je suis à la page, maintenant, Koufem Aleph, la page suivante.
280.
Ici, là, ici, 280. J'ai perdu.
Voilà, on va reprendre à Ar. Ar
ici.
Ar seulement. Ce qu'on vient d'expliquer, c'est seulement quand je peux encore protester, Vekitspo, avec ma colère, Vekasol Khavero. C'est-à-dire que, avec ma colère, ma colère va être utile. Là, dans ce cas-là, on te dit, ok. Aval, mais, Kesheyez Beyado Limchot, quand tu peux rien faire. C'est-à-dire quand tu sais très bien qu'on t'écoutera pas. Alors ici, je vais donner un exemple à l'extrême, mais en vérité, on pourra tous trouver des exemples dans notre vie. Kegon, par exemple. Ovdei Gilulim, imaginez-vous que vous êtes en train de faire votre Amida, et il y a un Oved Gilulim, ça veut dire un idolâtre, qui vient, un Medaber, qui parle, ou me balbelo bitfilato. Imaginez-vous la scène. Je suis en train de faire ma Amida, d'accord, ma Amida. Il y a un idolâtre qui vient, donc clairement, il veut m'embêter parce qu'il veut pas me laisser prier, mon Dieu, et il va se mettre à parler, et fait exprès pour m'embrouiller. Et tu vas crier, ça va faire quoi? Plus tu vas crier,
et plus
l'autre il va t'embêter.
Tu peux rien faire après.
D'accord ? C'est un exemple. Donc ça, c'est un exemple de la Gemara, ça. Que la Gemara, elle a mis cet exemple-là.
Il paraît bizarre l'exemple.
Non, parce qu'il a mis cet exemple-là parce que c'est un exemple de la Gemara.
D'accord.
Parce que la Gemara dit que dans ce cas-là,
on fait rien.
Tu fais rien, tu t'arrêtes, tu attends que ça passe et tu continues. Alors que dans d'autres cas, peut-être, tu as le droit de pousser l'obstacle.
Mais tu peux interrompre ton amida comme ça ?
Non, mais là maintenant, il y a quelqu'un qui l'embête, il n'arrive pas à avancer. Quelqu'un qui est là, il l'embête, il est là pour l'embêter. Il est là pour l'embêter.
Tu continues, tu fais abstraction.
Ah non, on ne peut pas continuer parce qu'il n'arrive pas à se concentrer.
En plus, il vient avec.
Imagine
qu'il vient avec une Nabot d'Azara à côté de toi.
D'accord ? Donc, Aval.
Hein là, ah ouais, là.
Il te dit, c'est que quand c'est quelqu'un qui vient te déranger.
Il peut venir avec une statue, je ne sais quoi.
Imken, écoutez, c'est très fort ce qu'il va dire ici et ça, vous allez voir comment on va l'appliquer dans la vie de tous les jours. Imken, si c'est comme ça. Quand je suis dans une situation comme ça, je suis en train de faire ma amida, après on va expliquer dans la vie de tous les jours, et j'ai quelqu'un qui est là en train de m'embêter, il ne me laisse pas faire ma amida, Mazatasha Asamlo, pourquoi Dieu me l'a fait ? Pourquoi Dieu m'a fait ça ? De toutes les façons, je sais que si je vais crier, ça ne marchera pas, alors pourquoi Dieu m'a fait ça ? Regardez bien ce qu'il dit ici. Enzot, en vérité, Dieu veut mon bien. Ki im kedesh yitgaber vitamet yotzer bitfilato. Akadosh Baruch Hu, il sent que ta tefila était light. Des fois, quand tu sens que la tefila de quelqu'un est light, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas le bouger un petit peu, tu vas l'empêcher un petit peu de faire cette fille-là. C'est l'exemple qu'il donne ici. Pour le pousser à chercher des forces en soi pour se concentrer. Ça veut dire qu'en vérité, il te dit, Akadosh Baruch Hu, t'as fait un reset en t'envoyant ça. Pourquoi ? Parce qu'il veut que tu te concentres plus. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez comment tout va changer ? Comment ? La même scène. Si j'ai par exemple mon enfant qui vient me déranger pendant ma mida. Il vient me poser une question. Il dit, papa, à quelle heure on sort ? Et je suis en train de faire ma mida. Et il vient tous les jours, il vient. Dans ce cas-là, j'ai le droit, si mon enfant n'écoute pas, j'ai le droit de lever le ton et lui dire, écoute, je t'ai déjà expliqué que quand on fait la Amida, tu me déranges pas. Donc là, je veux considérer que l'enfant me dérange et que je dois le crier. Parce que Dieu m'a donné un rôle de l'éduquer maintenant. Mais si maintenant, au lieu de mon enfant, Léavdil, c'était un non-juif qui vient, enfin un goy, quoi, qui vient pour me, un idolâtre qui vient pour me déranger, dans ce cas-là, on te dit non seulement que tu ne dois pas l'éduquer, mais Dieu est en train de t'éduquer à toi. Il a envie de te pousser à trouver des forces cachées en toi. Pourtant, c'est à peu près la même scène. Qu'est-ce qui a changé entre les deux scènes? Qu'est-ce qui a changé? C'est à peu près le même style. Je suis dérangé dans ma mida. Ce qui a changé, c'est très simple. C'est que dans le premier cas, avec ma colère, je peux faire quelque chose. Dans le deuxième cas, avec ma colère, je peux rien faire. Il ne me coûtera pas. Au contraire, il est là pour m'embêter. Et donc, l'Admor HaZaken, il dit, quand quelqu'un est là pour t'embêter, tu dois te dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'envoie. Parce que Akadosh Baruch Hu sent que tu as des forces en toi que tu n'as pas développées. Et Akadosh Baruch Hu veut que tu développes ces forces que tu as en toi. C'est très fort ce qu'il dit ici. Ah, seulement, chez le Madregazo Tsarir Itoru Draba Vatsuma. Il dit qu'en vérité, pour arriver à ce niveau-là, c'est un niveau qui est très difficile, un niveau d'être capable de se dire ça. D'accord ? Comment on peut arriver donc à un éveil comme ça? Comment tu fais? Quelqu'un qui vient, il t'embête, tu viens et tu veux dire non, en vérité, il m'embête. En vérité, Dieu est en train de m'éduquer pour me pousser à chercher des forces en moi. C'est difficile à réfléchir ça au moment même. En théorie, c'est très facile à dire, mais en pratique, quand tu as quelque chose qui t'arrive et qu'on va te dire que non, en vérité, c'est pas... tu vois que tu as essayé d'influencer la personne et ça marche pas. Des fois, vous savez, des fois, t'as quelqu'un qui peut essayer de t'embêter ou de mettre des obstacles. T'essayes de l'influencer, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit l'Admor HaZaken, il te dit c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a envoyé pour te pousser à chercher des forces en toi. C'est dur. Comment tu peux arriver à cette conclusion-là? Il te dit comme ça. Keshe Yassim El Libo, il va nous donner une technique. Comment réussir à réfléchir à ça? Keshe Yassim El Libo, il va réfléchir, Veit Bonen, il va prendre à cœur. Inya Niridat Ashrina Kavirol. Il va se dire, regarde, est-ce que tu t'imagines combien la Shrina est descendue depuis la création du monde? Veteret Plaim, comme c'est écrit dans Echa, combien la Shrina est descendue. Leiklabesh Nitzotz Meharata, Asherhi Biprinat Galut Betor Haklipot Derer Klal, Leachayotam. Imaginons, voilà, par exemple, je suis en train de vouloir étudier, et j'ai un obstacle. Qui c'est qui m'embête? D'accord? C'est un truc qui n'a rien à voir, par exemple, j'ai le son d'une église. Voilà, je vous donne un exemple plus moderne, peut-être. D'accord? Je vais étudier ma Torah, et j'ai les sons d'une église comme ça, qui est là. Ça me casse les pieds, j'arrive pas à étudier. Alors, Zakan, il dit, écoute.
Alors,
qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, non, tu dois te dire en vérité que Dieu a envoyé ça, même ça, pourquoi? Pour te pousser à chercher en toi des forces plus fortes. C'est très difficile à dire ça. Comment tu peux dire ça? Tu dis, regarde, j'ai une technique très simple. Il te dit, regarde. Imagine-toi, le chemin que la Shrina a fait depuis qu'elle est descendue. La Shrina est descendue. Donc la Shrina est descendue. Déjà, le fait que la Shrina descende, c'est déjà quelque chose de très grand. Pas seulement elle est descendue, la Shrina est descendue tellement fort que c'est elle qui va alimenter en énergie même les clipotes, même les forces du mal. Bon, très bien. Maintenant, tu vas continuer dans ta réflexion. Tu vas dire, mais tu sais, c'est pas seulement qu'elle est descendue et qu'elle alimente les forces du mal, mais elle alimente les forces du mal quand ils sont en train de se battre contre les forces du bien. Et là, à ce moment-là, quand tu vas arriver à cette réflexion, tu vas dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible que Dieu a laissé faire une chose comme ça. C'est impossible. Ça veut dire que, en vérité, quand on réfléchit jusqu'à où ça peut descendre, et comment Dieu donne la force à quelque chose comme ça, tu dis, c'est pas possible que Dieu donne de la force à quelqu'un pour faire du mal. C'est pas possible. T'es obligé de dire qu'il y a du bien dedans. Parce que quand c'est descendu un peu, ça va, mais là, c'est tellement descendu. La Shrina, elle descend. Et après, on donne la force au mal. Et au mal qui se bat contre le bien. Et une fois, et une autre fois, et une autre fois, et une autre fois, tu dis, c'est pas possible, il y a un truc. Tu peux pas dire qu'il est là que pour faire du mal et que Dieu est là et il suit. C'est pas possible. Non, pas vraiment. Donc tu es obligé de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a un plan derrière. J'ai pas forcément compris son plan, mais il a un plan. Et moi, ce que je dois essayer, Akadosh Baruch Hu, il veut des fois qu'on se reconcentre et qu'on trouve des forces en soi. Et après, une fois que tu auras compris le message et que tu auras trouvé tes forces en toi, Akadosh Baruch Hu, il enverra l'obstacle comme si il s'est jamais rien passé. Et ça, on le voit. D'accord? On le voit, moi j'ai vu plusieurs fois déjà ce concept-là. Ve'ata apam. Donc, ve'zeu mamash, asher shalat ve'adam l'eralo, da'inu shaliedeze mit orer a'adam le'itpalel yoter bechavana me'unka de liba'at shelo ushma dibourav. Il te dit qu'après, on va prendre cet exemple, parce que c'est un exemple que la Gemara amène. Je suis en train d'étudier, je suis en train de faire ma tefila, et j'ai un idolâtre qui vient pour m'embêter. Tu sais ce que te dit la Gemara là-bas? La Gemara te dit, tu vas te mettre dans une telle kavana, dans une telle ferveur, qu'après, cette idole-là, tu ne l'entendras même plus. Et ça, pour arriver là, hein, ça veut dire qu'en vérité, comment tu vas arriver là? Tu vas te mettre dans une kavana. Une kavana que jamais tu serais dans cette kavana. Jamais tu ne serais parti dans cette kavana si tu n'avais pas cette personne-là qui te dérangeait. Ça veut dire que très souvent, Kadosh Baruch Hu, il nous pique pour nous pousser à aller chercher des forces en soi qu'on n'aurait jamais développées. Jamais on n'aurait fait une amida comme ça que tu n'entends pas ce qu'il y a autour. Donc on t'a piqué, on t'a obligé, on t'a mis devant le mur. Et quand tu es devant le mur, là on va se retrouver à faire des choses.
Mais, donc, mais tout ça là, c'est pour toutes ces caractéristiques qui se disent, c'est pour n'importe quelle personne ou pour Benoni
pour tout le monde.
Ou,
pour tout le monde.
Tout le monde.
Donc maintenant avec ça, donc, je réponds, donc, on va répondre à la question. Imaginez par exemple que tu as quelqu'un qui t'énerve. Quelqu'un qui t'énerve, qui te laisse pas faire, je sais pas, une mitzvah. Alors déjà, on a donné les critères. On a dit, si c'est pas autour d'une mitzvah d'une avera, qu'est-ce que je dois faire?
Je
m'énerve pas. J'ai le droit de faire des remarques. J'ai le droit de dire que je suis pas d'accord. J'ai le droit de... Il y a pas ça, il y a pas de problème. Mais je m'énerve pas. Le seul cas dans lequel je m'énerve, c'est quoi le critère, on a dit?
C'est pour la Torah.
C'est quand c'est pour une mitzvah ou pour une avera. Et quand je pense que ça va servir à quelque chose. La preuve, on l'a amené de qui? De Moshe Rabbeinu. D'accord? Ah, maintenant, je vais me dire, et pourquoi, alors, pourquoi je m'énerve? Je m'énerve parce que je pense que ça va servir à quelque chose. Ok. Si je pense que ça va pas servir à quelque chose, qu'est-ce que je dois me dire? D'abord, je dois me taire. Je dis rien.
Que c'est Dieu qui m'envoie ce message pour que je
me... C'est Dieu qui m'envoie ce message pour me pousser à me reconcentrer sur moi-même et à trouver des forces en moi que jamais j'ai voulu développer. D'accord? C'est pour ça. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu m'a mis dans cet obstacle, qui m'a mis dans cette difficulté. C'est ce qu'il te dit ici, l'Admor HaZaken. Et donc ça, avec ça, l'Admor HaZaken explique ce que, rappelez-vous ce que j'avais dit là, dans le premier cours, il y a deux semaines, ce que le Baal Shem Tov dit dans son fameux testament. Enfin, qui n'était pas un testament, mais qui était ce qu'on appelait le testament du Baal Shem Tov. C'est ça ce qu'il explique. Ma Shekatav Amelaket Sharta Lo yadel chaven alashon bedikduk ki a Baal Shem Tov zichrona livracha aya omer belashon yiddish velo belashon lakodesh. Alors il dit comme ça, maintenant il y a une nuance. C'est quoi la nuance? C'est que le Baal Shem Tov, il a ramené cet exemple de la Gemara. Le fameux exemple dans lequel on voit, quand je vous ai dit qu'il y a un goy qui vient, qui va venir pour me déranger pendant ma amida. Voilà comme un coup de téléphone qui vient ici, qui vient nous déranger. D'accord? Donc on doit s'habituer à rentrer dans le cours de manière à ce que le téléphone ne me dérange pas. Voilà. Moi, ouais, il me dérange pas, en tout cas.
Bah, tu dépenses.
Non plus. C'est des techniques de concentration, ça.
Donc, je suis en train de dire, le Baal Shem Tov, dans son testament, ce qu'on appelle le Tzavat Arivash, qui n'est pas son testament, il a écrit comme ça. Il a écrit que dans cette scène, quand je suis en train d'étudier la Torah, ou de faire la Matfila, et qu'il y a un idolâtre qui vient pour me déconcentrer, qu'est-ce qu'a dit le Baal Shem Tov dans son testament? Il a dit qu'à ce moment-là, la Shrina réside sur l'idolâtre qui est en train de m'empêcher de faire ma Amida. Elle réside sur lui. Et ça fait un tollé. Ça fait un tollé. Parce qu'il y a des gens qui ont repris ça, ils ont dit, comment le Baal Shem Tov peut dire quelque chose comme ça, hein, que la Shrina réside sur un idolâtre? Comment on peut dire ça? Alors l'Admor HaZaken, il dit comme ça. Il dit, et c'est ça, là ça va correspondre à ce que je vous avais dit au premier cours, il y a deux semaines. Il dit qu'en vérité, Tzavat Aribash, le testament du Baal Shem Tov, d'abord c'est pas un testament, et d'abord il n'a pas été écrit par le Baal Shem Tov. Il a été écrit par les élèves du Baal Shem Tov, qui ont retranscrit des commentaires du Baal Shem Tov. Maintenant, le Baal Shem Tov, en quelle langue il parlait? D'accord? Il parlait en yiddish. Maintenant, Tzavat Aribash, le testament du Baal Shem Tov, il a été écrit en quelle langue? Il a été écrit en hébreu. Donc, on a transvasé. D'accord? On est parti du yiddish en hébreu. Et ce qu'il dit, c'est l'Admor HaZaken, c'est qu'en yiddish, le terme résider et le terme, on va dire, passer par, c'est deux termes qui sont dit pratiquement de la même manière. D'accord? C'est le terme qu'on peut. C'est des synonymes. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit en vérité ce que le Baal Shem Tov avait dit dans sa dracha. Il n'a pas dit que la Shrina réside sur le goy, qui est en train, l'idolâtre qui est en train de m'empêcher de faire la ferma de fila. C'est pas ça ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est que la Shrina va passer par le goy. Elle va passer par l'idolâtre pour me permettre de me dépasser. D'accord? Seulement quand ça a été traduit en hébreu, ça m'a été traduit. Et donc, du coup, il y a eu un tollé. Quand je dis un tollé, c'est un tollé. Hein. Ça veut dire qu'il y a des endroits où on a brûlé le testament du Baal Shem Tov à cause de ça.
Bon.
Ah ouais? Des endroits, ils ont dit, bah, s'il y a un truc comme ça, c'est-à-dire qu'il faut tout jeter.
Ça a été
cache. Hein.
Ah oui. Ah non, il y avait des moments où c'était très très dur. Ah oui, il y avait des gens qui ont dit bah oui. Comment on peut dire quelque chose comme ça, que la Shrina réside sur un idolâtre? Et c'est là que l'Admor HaZaken, dans le Tania ici, il vient défendre ça. Il dit non, il en a mal compris. Maintenant qu'on a vu cette lettre, on comprend maintenant ce que ça veut dire. On comprend beaucoup mieux que ça veut dire qu'en vérité, que des fois, Kadosh Baruch Hu, pour me faire passer un message, il me le fait passer indirectement. Parce que il ne veut pas me donner une claque directement. Donc il va me passer par quelqu'un d'autre, d'accord? Et à moi de comprendre le message qu'il y a derrière. Mais encore une fois, moi, ce que je trouve magnifique dans ce commentaire du je veux qu'on comprenne bien ça, ce que je trouve magnifique dans ce commentaire du Admor HaZaken, c'est que c'est à peu près la même scène quand on reprend le gamin qui vient là pour m'embêter pendant ma mida. Et l'idolâtre, les Avdil qui vient embêter dans la mida, c'est à peu près la même chose. Le concept est le même. Je suis en train d'étudier, je suis en train de faire ma tefila, on me dérange. Mais il te dit l'Admor HaZaken, selon la scène.
La mission n'est pas la même.
D'accord? La mission n'est pas la même. Quand c'est un enfant qui te dérange, ça veut dire que Dieu n'a rien à te reprocher à toi. Seulement il te l'a mis devant parce qu'il pense que tu peux l'influencer. Donc il dit vas-y, occupe-toi de lui maintenant. Dieu explique-lui que c'est pas bien de le faire. Comme ça, il faut qu'il comprenne. Pourquoi? Parce que là, il estime que tu peux influencer. Mais quand c'est quelqu'un que tu penses que tu n'auras aucune influence sur lui, ou tu vois que tu n'as pas d'influence sur lui, et bien dans ce cas-là, le message est que tu dois ignorer, et que Akadosh Baruch Hu te dit qu'il sait que pour ignorer les attaques, tu vas devoir chercher des forces très fortes en toi. Quelqu'un qui t'attaque, c'est très dur
de se contrôler.
Vous savez, j'avais entendu une fois un rave qui avait donné l'exemple suivant. Il a dit dans notre cerveau, c'est comme quand vous rentrez dans une régie télé. Vous savez, ils ont plein de petites télés qui vous donnent, plein de petites télés qui vous retransmettent les chaînes à peu près tout le monde. D'accord? Les grandes chaînes à peu près tout le monde. Donc, t'as plein de chaînes partout. Vous voyez les écrans comme ça? Oui. T'as un écran ou des fois, t'as
des... Un journal, c'est plus la réalisation et toutes les caméras pour un événement sportif.
Alors, ils ont plein de chaînes, ils ont toutes les chaînes pour capter, etc. Des fois, ils ont 50 chaînes. Bon. Maintenant, sur les 50 chaînes, il faut bien te concentrer sur une, tu peux pas regarder 50 en même temps. Donc tu vas aller voir les 50. Tu les vois les 50, mais il y a forcément une qui va capter ton attention plus que les autres. Elle est expliquée comme ça. Il a dit c'est la même chose dans notre cerveau. Dans notre cerveau, on voit beaucoup de choses. Notre cerveau analyse, il analyse beaucoup de choses, des bonnes et des mauvaises choses. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un il t'attaque, la personne qui t'attaque, peut-être qu'il a aussi beaucoup de qualités, que tu connais. Tu vois des qualités dans un écran. Mais il y a forcément un écran qui va prendre le dessus sur les autres. Et tu verras que cet écran, et tu oublieras les autres écrans. Cet écran, il va s'étirer sur tout le mur, dans ta tête. Eh ben, c'est un. Hein,
il y a des programmes.
Oui, ça veut dire que dans ma tête, je vois cet écran et quelque part, il prend beaucoup plus de place que les autres. Eh ben, c'est la même chose. Quand des fois quelqu'un il t'attaque, finalement, quand tu analyses la place que tu vas donner à l'attaque par rapport à la place réelle qu'elle a dans la vie, en général, on lui donne une place beaucoup plus grande. Mais on n'a pas le choix, parce que le cerveau est comme ça. Le cerveau est comme ça, il ne peut pas réfléchir à... Il ne peut pas donner la même importance à toutes les choses. Il doit forcément se focaliser sur une chose, on est obligé. Seulement le problème c'est quoi? C'est qu'en général, on se focalise sur quoi? On se focalise sur le mal. On se focalise sur le défaut. Sur l'écran, on dit, ah t'as vu, il m'a fait ça. Mais attends, t'oublies tout ce qu'il t'a fait, t'oublies toutes les qualités. C'est comme ça. C'est ce qu'il te dit ici. Il te dit ici que l'effort que tu vas faire pour éteindre cet écran, même si c'est pas l'éteindre, mais du moins le mettre à sa proportion, c'est un effort très fort que tu vas faire. Eh bien, Kadosh Baruch Hu voulait que tu fasses cet effort parce qu'il sait qu'avec ça, tu vas trouver en toi des forces dont tu ne te doutais jamais. D'accord? C'est ce qu'il explique ici. Alors, il dit maintenant... Oumash et Katav, Amelaket. Donc, vous avez Oumash et Katav?
Oui.
Attends, bon. Ici, je suis arrivé, bonjour à moi.
Voilà. Mach et Katava Melaket, qu'a écrit le Melaket, donc le Melaket, ça veut dire l'Admor HaZaken. Ce qu'a écrit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, ce qu'il a écrit, Sharta. Bien que dans le testament du Baal Shem Tov, c'est écrit le terme Sharta, que la Shrina réside sur l'idolâtre qui est en train de m'embêter. En vérité, c'est pas résider qu'il faut comprendre, mais, d'accord? Passer au travers d'eux. Lo Yada Lechaven Lachon Bedikduk, celui qui a écrit le testament du Baal Shem Tov. Celui qui a compilé ça, hein, il n'a pas su écrire bien. Alors ça, si j'ai lu le commentaire du Tania, il explique que aussi à l'époque, la langue pratiquée, les Juifs parlaient plus le Yiddish que l'hébreu. Et quand c'est pas ta langue natale, des fois, qu'est-ce qu'on fait? On le voit ça même avec le français. Des fois, tu vas traduire un mot, par exemple.
Ta pensée.
Non, ça veut dire par exemple. Je sais pas qu'est-ce que vous donnez par exemple. Qu'est-ce que vous donnez comme exemple? Il y a des notions qu'on a en français, et que des fois les gens traduisent, quand ils veulent le dire en hébreu, ils vont le traduire en hébreu. Alors qu'en vérité, en hébreu, ça veut rien dire. D'accord. Il y avait un exemple que j'avais, quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, je m'avais éclaté de rire, je ne me reviens plus. Bon, j'ai oublié. L'exemple me revient, ça me reviendra. Il y a des notions qu'on a en français comme ça, des mots que tu as en français, que tu ne peux pas traduire. Si tu traduis, ça ne veut rien dire. D'accord ? Et des fois, en traduisant, mais seulement concrètement, puisque ma langue natale, c'est le français, donc concrètement, sans le vouloir, des fois en hébreu, tu vas traduire du français. Et un Israélien qui va t'écouter, il va dire, mais c'est ce que tu racontes, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Donc c'est le même problème qu'on a eu ici. C'est que lui, celui qui a écrit le testament du Baal Shem Tov, en vérité, dans sa tête, il est en train de traduire de l'Yiddish vers l'hébreu. Donc il y a des notions qu'il a écrites en hébreu, mais en vérité, il faut aller chercher dans le Yiddish. Bon, j'explique ce qu'il veut dire ici, parce que sinon on ne comprend pas. Donc, Lo Yadal Chaven Alashon Bedikduk, celui qui a écrit, il n'a pas su bien aiguiller le langage. Parce que c'est un art d'aiguiller le langage et d'être capable de... La même portée, mais dans un autre mot, exactement. Donc, Lo Yadal Echaven Alashon Bedikduk, qui a Baal Shem Tov Zichronal Livracha, parce que le Baal Shem Tov Zichronal Livracha, quand Aya Omer Divrei Torah Belashon Yiddish, le Baal Shem Tov disait les Divrei Torah en Yiddish, velo Belashon Hakodesh. Il disait pas les Divrei Torah en hébreu.
Il y a une tira du Rabbi, le Rabbi explique pourquoi le Baal Shem Tov il parle en Yiddish et pourquoi en général on a vu que dans les pays de Galout on a toujours parlé dans des langues qui n'étaient pas l'hébreu.
D'accord, même le Rabbi parlait en Yiddish.
Bien sûr, oui. D'accord. Vous prenez même par exemple même en Afrique, d'accord, en Afrique on ne parlait pas l'hébreu, on parlait le judéo-arabe. Pourquoi? Comment ça s'est? Pourquoi on n'apprenait pas l'hébreu aux gens? Il y avait des érudits qui parlaient l'hébreu couramment, mais le peuple ne parlait pas spécialement hébreu. Pourquoi? Pourquoi? Explique comme ça. Non, mais c'est quoi le sens qu'il y a derrière? Tu sais, excuse-moi de l'exemple, hein, mais les Arabes ici, ils apprennent l'arabe à leurs enfants depuis petits, et les Arabes, ils parlent couramment l'arabe. Hein. Alors, pourquoi on ne fait pas la même chose à nous avec l'hébreu? Hein? C'est quoi le sens? Il a expliqué comme ça. Il a dit que la raison pour laquelle on a eu ces langues comme le yiddish en vérité, c'est du judéo-allemand. D'accord, le yiddish, c'est la même chose. Donc on a le judéo-arabe, on a le judéo-allemand. Pourquoi? Il dit parce qu'en vérité, on sait que dans une langue, dans toutes les langues du monde, se cachent des étincelles de Kedusha. Et le fait qu'un juif utilise une langue d'un pays, Akadosh Baruch Hu veut qu'on récupère les étincelles du pays. Donc pour récupérer les étincelles du pays, il faut vivre dans le pays. Ça veut dire qu'il faut utiliser la culture du pays, il faut parler dans le langage du pays, il faut vivre comme le pays. Tu dois être à fond dans la culture du pays. Donc tu dois parler dans la langue du pays. Mais le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu nous a dit qu'on doit se séparer des nations. Alors c'est quoi la technique qu'on a trouvée? La technique qu'on a trouvée, c'est de faire un mélange. Judéo-arabe, judéo-allemand. Ça veut dire qu'il y a l'arabe, il y a l'allemand, mais il y a l'aspect judéo, il y a l'aspect juif. Pour montrer comment on a récupéré des étincelles de Kedusha qui se trouvaient même dans la langue. Parce que dans chaque chose qu'il y a dans le monde, il y a les étincelles de Kedusha. C'est pour ça que le Baal Shem Tov parlait en Yiddish. Quand le Yiddish, on appelle la langue de la galoute. Judéo-arabe aussi. Le français, bon, on n'a pas le judéo-français. Il n'y a pas encore. Bientôt, si Dieu veut.
Allez, pas on va lancer le...
Judéo-français. Ah ben, ça serait un bon plan, ça. Hein, qu'est-ce que vous pensez? Judéo-français.
Le latin. Le latin, il y a le roumain, l'italien, l'espagnol, le portugais, tout ça, c'était les langues latines.
C'est la langue latine, oui. Mais nous, je veux dire, nous, comment, quand on parle en français, on a rajouté l'aspect juif?
Le latin, il n'est pas issu de l'hébreu.
Non, il a raison, c'est qu'après toutes les langues, on est parti sur le latin qui a été...
Il y a beaucoup de mots en français qui ont une racine hébraïque.
Oui, mais comment nous, concrètement, en France, comment on peut dire en France qu'on a sanctifié la langue? On n'a pas sanctifié la langue.
Voilà,
on l'a fait, avec l'arabe et l'allemand.
Avec d'autres langues.
Oui, avec d'autres langues. Judéo-espagnol, oui.
Judéo-espagnol, c'est tout.
Ouais, judéo-espagnol, il y a aussi. C'est rien qu'il y avait. Bon, enfin, je ne sais pas pourquoi. Donc il dit, parce que il y a vraiment des. C'est pas du tout la même langue.
Le chinois, on l'a pas fait non plus.
Judéo
chinois.
Il y a très peu de juifs là-bas, bon.
Ah, mais c'est déjà sino.
On va demander au professeur à Bitbol qu'il nous fasse un truc.
Mais Rat Shalom, mais en vérité, ce que le Baal Shem Tov voulait dire, c'est pas Rat Shalom de dire que la Shrina va résider sur l'idolâtre quand il est en train de m'embêter. C'est pas ça Rat Shalom qui voulait dire. Rat Shalom, ce que voulait dire le Baal Shem Tov, c'était plutôt Nitlabcha. elle s'est habillée, c'est-à-dire qu'elle est passée par le goy, elle est passée par l'idolâtre, pour me permettre de me dépasser. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qu'il veut dire ici, le Baal Shem Tov, c'est que des fois, le canal qu'Akadosh Baruch Hu va décider de faire passer pour te bousculer, des fois, ça peut être un canal auquel tu peux pas du tout t'attendre. On aurait pu penser que pour me faire une remarque, pour me bousculer, ça serait venu d'un ami, ça serait venu de la famille, ça serait venu de quelqu'un que j'aime. Tu dis pas du tout. Tu dis des fois, ça va passer par la personne qui te veut le plus de mal. Et que toi, quand tu vois ça, tu dis, mais c'est pas possible. Pourquoi Akadosh Baruch Hu m'envoie un truc comme ça? Qu'est-ce qu'il me veut? Et tu dis, en vérité, c'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu. Tu dis, de deux choses l'une. Soit tu peux avoir une influence sur lui. Tu lui cries dessus, tu lui dis, laisse-moi tranquille. D'accord? Parce que Akadosh Baruch Hu t'a mis devant pour que tu le remettes en place. Soit c'est au contraire, Akadosh Baruch Hu veut te pousser à te dépasser. Sinon, il n'y aurait pas eu. Vous savez pourquoi sinon il n'y aurait pas eu? C'est dans un autre endroit, le Baal Shem Tov explique ça. Baal Shem Tov, il dit, imaginez une scène, imaginez la chose suivante. Imaginez que vous avez plusieurs enfants. Imaginez que vous avez plusieurs enfants et que tu sais que l'enfant numéro 2 a fait une bêtise. Tu vas aller le raconter aux autres enfants? Les autres, ils ne le savent pas. T'as un enfant qui a fait une bêtise à l'école, par exemple, mais les autres enfants ne le savent pas. Est-ce qu'on va aller le raconter aux autres enfants?
Quel intérêt
j'ai à dénigrer un enfant devant les autres enfants? Je veux dire, c'est moi qui perds. Alors le Baal Shem Tov dit la même chose. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Il dit, quel intérêt tu crois que Kadosh Baruch Hu il a de te montrer des fois le mal qu'il y a chez quelqu'un? Pourquoi il a pas fait que tu ne le vois pas? Pourquoi il a pas fait que tu passes pas à côté de lui, ou que tu habites pas à côté de lui, ou que tu vois pas, ou que tu passes pas à côté de lui? Si Kadosh Baruch Hu l'a fait, il explique que le Baal Shem Tov, c'est de deux choses l'une. D'accord? Soit c'est parce que Kadosh Baruch Hu pense que tu peux intervenir, tu peux l'aider, donc aide-le. Soit c'est qu'en vérité, Kadosh Baruch Hu veut te pousser à te dépasser. Mais s'il n'y avait pas ça, Akadosh Baruch Hu aurait fait que tu n'aurais rien vu. Rien vu. Et c'est pour ça que des fois, il y a des choses qui se passent, on ne voit rien du tout. Quand il te raconte, il dit, je sais pas ce que tu me racontes, j'ai pas vu. Parce que ce qui n'est pas prévu pour moi, Akadosh Baruch Hu ne le montre pas. Soit c'est moi qui dois l'arranger, soit c'est lui qui doit m'arranger. S'il n'y a pas un des deux, Akadosh Baruch Hu ne le montre pas. Donc on doit se poser toujours la question dans les deux directions. On doit se poser la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a montré ça? Est-ce que c'est moi qui dois l'aider, ou est-ce que c'est lui qui est en train de m'aider? Il faut toujours se poser la question. Si moi je peux l'aider, je dois l'aider. D'accord? Si je peux pas l'aider, c'est que c'est lui qui en vérité qui est en train de m'aider indirectement, sans même le savoir. Comme cet idolâtre, sans même le savoir. Les Avdil. C'est bon, David, t'as compris?
Oui.
Alors qu'est-ce qu'on fait?
Pour l'instant, on s'énerve pas. On essaie de capter le message.
On fait pas comme Raphaël, on met pas un coup de poing à son ami.
Je te donne un exemple maintenant. Je vais te faire un cas pratique. Imagine-toi, tu rentres chez toi à la maison. Et tu entends, c'est un exemple que je donne, hein. Tu entends ta femme en train de dire du lachanara au téléphone. Qu'est-ce que tu fais?
Là, tu dois faire un semblant de colère, quand même.
Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, hein, monsieur Bergel?
J'ai pas entendu, pardon.
Alors, je rentre à la maison, moi, je vais dire sur moi, comme ça, on est tranquille. Je rentre à la maison et j'entends ma femme dire du lachanara au téléphone. Qu'est-ce que je fais?
Tu lui coupes la ligne.
Eh ben, ça dépend, parce que si on en fait soi-même, c'est un peu dur, il faut se
réveiller. Attendez. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait que j'ai vu? Même si c'est ma femme. Il aurait pu faire que j'ai un empêchement, que j'arrive un quart d'heure plus tard.
C'est pour ça.
Un quart d'heure plus tard, que je n'aurais pas entendu.
Tu discutes avec elle et d'accord. Tu as une influence.
Est-ce que tu es sûr que tu auras une influence?
Évidemment. Sinon, c'est plus la peine que tu sois avec elle.
Évidemment.
C'est plus la peine que tu.
Il y a des fois des choses qu'on sait que ça ne marchera pas.
Ouais, alors.
Tu vas la stopper sur le moment, c'est évident, ce que tu dis. Tu vas la stopper sur l'instant.
Hein? Que la prochaine fois, elle saura faire attention de ne pas parler quand elle a, c'est ça?
Non, sur l'instant, comme dit David, pas, effectivement.
Mais tu as raison, t'as pas toujours influence.
Ah, mais à la fin, ça te retombe dessus.
Non, sur l'instant, tu peux lui expliquer. Bon, alors maintenant, il y a la formule, il y a la manière.
Oui, mais la colère, est-ce que je dois...
Ça sert à rien de...
M'énerver, bien sûr, je dois m'énerver.
Si tu t'énerves, non, ça sert à rien.
Tu vas prendre...
Bien sûr que je dois m'énerver.
Non, par contre, ça peut être pour toi, un signe, tu dis... Attends, mais elle arrête pas de faire ça, c'est pas bien. Et après, tu dis...
Mais pourquoi tu veux la montrer?
Je suis pas mieux qu'elle.
Pourquoi tu veux la montrer?
Donc, d'abord, avant de lui faire des remarques, peut-être que moi, je fasse aussi...
Ça, c'est le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit... Le Baal Shem Tov, il dit que... Le Baal Shem Tov, il dit... Non, il a raison. Le Baal Shem Tov, il dit comme ça. Le Baal Shem Tov, il dit que très souvent...
Ce qu'elle va te dire, mais toi, tu fais pire.
Akadosh Baruch Hu, s'il te montre un défaut chez un autre, c'est comme un miroir.
Exactement, c'est
une miroir. Non, des fois, t'as un miroir grossissant. C'est-à-dire, des fois... Non, j'explique ce que je veux dire.
Non, en psychologie, ça s'appelle comme ça.
Je vais expliquer, excuse-moi, monsieur Berger, je vais expliquer. C'est-à-dire, des fois, toi, tu as un défaut qui est très petit et que tu le remarques même pas. Alors, qu'est-ce qu'il va te faire, Kadosh Baruch Hu? Il va te montrer une caricature, il va te montrer ce défaut-là chez une personne qui a ce défaut en grand. mais sans que tu pourras l'aider. Tu pourras pas l'aider. Pourquoi il te le montre? Parce que comme ça tu vas te dire, mais attends, finalement, moi je le reproche ça, mais finalement, est-ce que moi aussi je devrais pas me reprocher ça?
Non,
et en mode miroir, tu vas dire, peut-être que oui.
Ouais, c'est pour ça. Ah ouais, dans ce cas-là, c'est...
D'accord. On dit que, on raconte sur le Rabbi Rachab ça. On dit que le Rabbi Rachab, chaque fois que quelqu'un venait le voir en Yéhidout, en entrevue privée, et qu'il lui racontait donc des, qu'il lui racontait ce qu'il faisait dans sa vie, chaque fois le Rabbi Rachab, il s'efforçait de trouver ça dans sa vie, de trouver comment moi j'ai fait la même chose que la personne. C'est-à-dire que le gars il vient lui raconter qu'il a fait des Averot, etc. Le Rabbi Rachab, il se posait la question, il disait comment je peux retrouver ça chez moi. Alors pas aussi grave que ça, mais dans le même concept. D'accord ? Et on raconte d'ailleurs une fois une histoire comme ça, qu'une fois, il y a quelqu'un qui est venu le voir. Bon, peu importe pourquoi, qui est venu le voir pour quelque chose de très grave qu'il avait fait. Et le Rabbi Rachab, il a demandé à tout le monde de stopper la Yéhidout. D'accord ? Il a demandé à tout le monde de stopper la Yéhidout dans l'entrevue privée. Et pendant plusieurs jours, il a pas pris un Yéhidout. Son fils lui a demandé, il a dit, papa, pourquoi tu prends plus un Yéhidout dans l'entrevue privée ? Il a dit, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a raconté quelque chose. Alors, il a fait exprès de... Bon, il n'a pas stoppé à la personne qui l'a arrêté. Hein. Il a stoppé 2-3 personnes plus tard pour brouiller les pistes. Mais il a dit, il y a quelqu'un qui m'a raconté quelque chose. C'est quelque chose de tellement grave que je n'arrive pas à retrouver ça chez moi. Alors, moi, je vais vous le dire, l'histoire. Dans l'histoire, on raconte, on dit que c'est une personne qui était venue raconter au rabbi qu'il avait eu des relations avec une femme morte. Ouais. C'est une maladie, vous savez, c'est une maladie. Hein. On donne une fois le monde. Hein? Comment?
C'est
une maladie. Et ça l'a tellement choqué, d'accord? Ça l'a tellement choqué qu'il
Comment tu veux retrouver ça?
D'accord? Attends. Ça l'a tellement choqué, il a dit c'est pas possible. Il a dit non, mais Dieu préserve. Non, c'est une maladie. Non, c'est une maladie. Hein.
C'est sûr.
Je sais même pas si ça se soigne. Ça se soigne, je sais même pas.
Sans doute.
C'est une maladie.
Ça existe, c'est sûr.
Et donc, il y a quelqu'un qui est venu raconter ça au rabbi. Et le rabbi, il était tellement perturbé par ça que il a dit, mais c'est pas possible. Il a dit, pour lui donner une solution, il faut d'abord que je trouve le problème au moins en mode minime chez moi, mais il n'arrivait pas à trouver.
Il peut pas.
Bah d'accord. Bien. Comment tu vas trouver ça? Comment tu vas trouver ça?
Et comment il a fait?
Après, à la fin, il a trouvé un truc, bon, c'est un truc tiré, un peu tiré par les cheveux. Il a trouvé un truc qu'une fois, il avait profité de quelque chose que quelqu'un lui avait dit, mais que, enfin, je ne me rappelle plus exactement les détails, mais il avait profité, mais sans faire fructifier, enfin, un truc vraiment tiré par les cheveux. D'accord? Un truc tiré par les cheveux, parce que vraiment, il n'arrivait pas à trouver. Et de là, on voit quoi? Que là, on voit que même un rabbi à son niveau, il applique ce que le Baal Shem Tov dit. Que si on te montre quelque chose chez quelqu'un, tu dois forcément le retrouver chez toi, en mode minime. Au moins en mode minime. Sinon, il ne serait pas venu chez toi. D'accord? C'est très difficile, ça, à comprendre. Ouais, encore une parole du Baal Shem Tov. C'est-à-dire, tout ce qu'on voit, tout
donc,
ce qu'on entend...
Je vois tes défauts, je dois les avoir un petit peu...
Un petit peu, au moins un petit peu.
Il y a quelqu'un qui peut faire ça.
Non, mais non, le Baal Shem Tov demande à ses élèves de faire.
Ah bon?
Oui. Mais c'est pas compliqué?
Non, oui, bien sûr.
Tu vois un défaut chez quelqu'un. Par exemple, tu dis, ah, celui-là, je trouve qu'il est orgueilleux. D'accord? Peut-être que toi...
Tu cuisines bien.
D'accord? Peut-être que toi, en vérité, peut-être que moi, en vérité, j'ai un problème d'orgueil, mais qui est minime, mais que jamais j'aurais fait attention à ça. Mais quand on monte un miroir grossissant, là, dans ce cas-là, je vais dire, bah, finalement, moi aussi, je vais aller chez moi. Et quand je vais réfléchir comment je l'arrange chez moi, peut-être que je pourrais aider l'autre à l'arranger chez lui aussi. Ça, c'est le Baal Shem Tov.
Ah, mais c'est à l'infini. Chaque fois que tu vois quelqu'un, il faut que tu penses à ça.
Le Baal Shem Tov te dit comme ça. Le Baal Shem Tov, il te dit, sinon, tu l'aurais pas vu. C'est très simple. Il te dit, sinon, tu l'aurais pas vu.
T'imagines un prof?
C'est logique. C'est logique, il dit.
140 élèves en moyenne par an. Oui. Il faut que je trouve dans les 140 les qualités, tous les défauts.
Déjà, si vous les avez vus, ça veut dire que vous devez les... C'est un très bon exemple, vous parlez des professeurs. Pourquoi? Parce qu'on voit que les professeurs, des fois, il y a un professeur qui va te dire, je supporte pas cet élève. Et l'autre, tu vas dire, mais non, moi, au contraire, c'est un super élève.
T'as du boulot.
Combien de fois vous avez vu ça?
Mais c'est évident.
Ça vous arrive ou ça vous arrive pas?
Moi,
il y a qu'un rêve. Alors, il y a qu'un voir en réunion par mon élève. Il y en a qui te disent deux fois, mais ils trouvent des choses complètement inversées.
Exactement. Alors, comment c'est possible?
Tous les profs peuvent justifier.
Parce qu'en vérité, chaque prof, il a son petit coup, donc il l'a lui aussi.
Ouais, non, là, c'est pas un petit coup.
Et si c'est quelque chose, si Akadosh Baruch Hu, il pense que le professeur ne pourra pas aider mon enfant sur ce détail de mon enfant, Akadosh Baruch Hu ne lui montrera pas le défaut. Pour l'enfant, il dit, votre enfant exemplaire, le meilleur enfant de la classe.
Et je veux dire, vu les élèves qu'on a là-bas... D'accord.
Bon, alors on continue.
Pour ça, pas.
Erev Tov.
Ça, quand tu vois les élèves, c'est pas les élèves de Yavne qu'on a, nous, là-bas.
Donc, je continue. Il dit maintenant, au Vézé, ou au Bifrat, il m'ou avait Gilulim. Chez Az, il biprinat Galout Beyoter. Que là... Quand on va s'imaginer la Shrina comme allant galoute, comme un langue galoute quand elle va être, quand elle va devoir passer par un goy, passer par un idolâtre pour m'influencer, ouais, la shrina va grave descendre. Il veut en lit moa im nitzot minarat shrina nikra veshem shrina de ashkachan shafilu malach nivra nikra veshem Hashem parashat vayera le pirush haramban. Ok, alors ça je vais expliquer. Il dit il y a quand même quelque chose qui est bizarre dans ce que le Baal Shem Tov a dit. Pourquoi? Parce que le Baal Shem Tov a dit, ok, alors tu vas me dire que Dieu, la shrina ne réside pas sur l'idolâtre, mais qu'est-ce que tu m'as dit? Mais la shrina, on va dire, elle passe par l'idolâtre. Mais concrètement, tu vas dire qu'elle s'habille par l'idolâtre, c'est-à-dire que l'idolâtre à ce moment-là, il véhicule la shrina. Comment tu peux dire quelque chose comme ça? Même ça, ça nous dérange. C'est moins grave qu'avant, on dit pas que la shrina réside sur lui. D'accord, mais on dit quand même qu'elle passe par lui. Comment tu fais ça? Pourquoi?
C'est pas grave de dire ça, non, parce que c'est une créature de...
J'ai compris, mais pourquoi tu dis quelque chose comme ça? Alors, il te dit comme ça. Il te dit, l'Admor HaZaken, il te dit un principe très simple. Il te dit, on a un principe que chaque chose par lequel la Shrina transite, il porte le nom de Shrina. D'où il tire ça? Il tire ça de Parashat Vayera.
Attends, répète, chaque chose...
Ah, excusez-moi, je dois finir. Qu'est-ce qu'il te dit? D'accord. Il te dit que... Il te dit, il t'amène une preuve de Parashat Vayera. Qu'est-ce qu'on a dans Parashat Vayera? Dans Parashat Vayera, alors dans Parashat Vayera, on voit que Avraham Avinu, il a dit, Vayomer, il a dit, Adonai al natavar me'al avdecha. Lorsque les trois anges qui sont venus le voir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Adonai, hein, je vous dis, parce que c'est écrit Adonai. Alors Adonai, comment ça veut dire Adonai? Ça veut dire, les gens traduisent ça par mon maître. Ça veut dire, votre majesté, ne passez pas, venez chez moi à la maison. Le Ramban dit non. Il dit Adonai, ça ne veut pas dire mon maître. Ça veut dire le nom de Dieu. Il dit mais comment? Comment il dit Dieu ne passe pas? Mais il ne parle pas à Dieu, il parle à des hommes. Qu'est-ce qu'il te répond le Ramban? Tu dis non. Il dit parce qu'Avraham, Avinu avait compris qu'il avait affaire à des anges. Et quand il leur dit Adonai, Al-Natavar Malavdera, il est en train d'appeler les anges avec le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que comme les anges à ce moment-là véhiculent la Shrina, donc on les appelle Hachem. Mm-hmm. Aussi simple que ça. Du rouge du Ramban.
C'est...
Ça veut dire que le Ramban te dit que tout ce qui véhicule la Shrina, on peut l'appeler Hachem. Donc avec ça, on comprend pourquoi même ce Goy, au moment où il est en train de me véhiculer la Shrina, comment il s'appelle? À ce moment-là, il s'appelle Shrina.
Non, pas lui. Ce qui véhicule.
Ce qui véhicule, mais quelque part, eh ben, à ce moment-là, il est Shrina.
D'accord.
Donc, comment je sais comme c'est écrit, Vatikra.
Il avait la volonté de Dieu, ce qui véhicule.
Ouais. Deuxième exemple, Hagar. Vous connaissez Hagar?
Bien sûr.
D'accord. Hagar, c'est la servante d'Abraham et la maman de Ishmaël. Très bien. Hagar, il y a un ange que Abraham l'a renvoyé. Elle était dans le désert. Elle trouvait pas à boire. D'accord. Il y a un ange qui est venu la voir. Qu'est-ce qu'il lui a dit cet ange? Hein? Qu'est-ce qu'il lui a dit l'ange à Hagar?
Ne t'inquiète pas.
L'ange, qu'est-ce qu'il a dit l'ange à Hagar? Lorsqu'elle était dans le désert, elle était perdue. Qu'est-ce qu'il lui a dit?
Ne pleure pas.
Il lui a dit, ne t'inquiète pas, d'accord, n'aie pas peur,
d'accord,
Dieu est avec toi, et il a trouvé de l'eau. Très bien. Après, elle, Hagar, a répondu à l'ange. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Vatikra Shem Hashem Adover Alea. Elle a appelé le nom de Dieu qui est en train de lui parler. Mais c'est pas le nom de Dieu qui est en train de lui parler, c'est un ange. Viens de dire juste avant que c'est un ange. Deuxième preuve de ce qu'on vient d'expliquer que quoi? Comme l'ange, à ce moment-là, véhiculait la parole de Dieu, on l'appelle Dieu. D'accord? Ça aussi, c'est un truc, vous savez, ça, c'est un truc sur lequel il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé. Il y a un texte très ancien de la Chassidout, dans lequel on dit, c'est écrit, que un tzaddik, c'est comme Dieu. Ça, vous imaginez, les gens, quand ils ont entendu, ils ont dit, mais quoi? Ils sont fous, quoi? Comment on peut dire ça? Un tzaddik, c'est comme Dieu. Un tzaddik, c'est un tzaddik, et tout le monde qui est là, mais quel rapport? Comment un tzaddik, c'est pas être comme Dieu? Alors, le terme qu'il y a dans Torah Shalom, c'est écrit, c'est Atzmut Umaout Melouvash Begouf. C'est l'essence de Dieu habillé dans un corps. C'est très grave de parler comme ça, c'est pas de chez nous, ça, c'est pas une autre religion, ça. Comment on peut dire une chose comme ça? Et là, encore une fois, quand on lit ce qui est expliqué sur Tania, on comprend que comme le tzaddik, t'as la parole de Dieu qui s'habille en lui, t'as le message de Dieu qui s'habille en lui, donc comme le message de Dieu s'habille en lui, donc à ce moment-là, on l'appelle Dieu. Et c'est pas problématique. D'accord? Mais encore, ça veut pas dire que c'est Dieu. Ça veut dire que selon la Torah, quand quelque chose qui s'habille.
Il s'est effacé.
Exactement. Donc à ce moment-là, on l'appelle Dieu. On l'a vu avec le malach. On appelait le malach Dieu. Pourquoi t'appelles le malach Dieu? Deux fois, deux reprises. Chez Abraham et chez Hagar.
Ou bien si tu peux dire de Moshe Rabbeinu, où on dit qu'il y a finalement après, à la fin, quoi, il avait changé d'aspect.
Oui.
Ça, tu peux le dire vraiment de Moshe, parce que finalement, lui, en tant qu'individu, il n'existait plus. Est-ce que tu peux arriver jusqu'au niveau de le dire à
un sadique,
parce qu'on voit quand même une forme matérialité, t'as beau
dire. Et alors,
voilà, c'est ça.
Mais il est porteur du message de Kadosh Baruch Hu.
D'accord. Donc c'est toujours ce qui véhicule, pas. Ah oui. Faut pas voir le, il faut bien.
Bah oui. C'est voilà, dans le mot de Torah Shalom là-bas, c'est Tor Atzmut Umaut Mulvash Beguf. C'est l'essence de Dieu qui habite dans un corps. Vous savez combien d'encre a coulé sur ce texte-là?
L'essence de Dieu. De manière, il y a
partout. Des gens pareils, des gens qui ont brûlé ce livre, des gens qui ont dit la Chassidoute. Enfin, c'est un texte ancien de la Chassidoute. Des gens qui ont dit, ouais, la chassidoute, etc. Alors en vérité, parce que quand on comprend pas, cette notion-là, on peut très vite mal comprendre. Tu comprends quand on te dit, la shrina réside, des phrases choc comme ça, comme, la shrina réside sur un goy. Ah ouais.
J'ai rencontré un papy tout à l'heure quand je suis venu chercher dans la crèche. Mais tu sais ce qu'il m'a dit mon petit-fils hier? Il m'a dit, le rabbi, c'est Dieu. Il était choqué quand même.
Eh oui, ça choque, c'est pas possible, on peut pas dire quelque chose comme ça.
C'est shalom. La vérité sort de la bouche des enfants.
D'accord, mais là, on m'en comprend. Maintenant on comprend. C'est pas que. Mais ça c'est un texte de la chassidoute.
Faire écouter le.
C'est pas. Ça c'est un texte de la chassidoute. Le texte de la chassidoute, il te dit comme ça. Il te dit. C'est pas que le tzaddik c'est Dieu. C'est comme Akadosh Baruch Hu s'habille dans le tzaddik. D'accord. Donc, alors, le tzaddik à ce moment-là l'appelle Dieu. Il véhicule Dieu.
Oh, mais chacun d'entre nous, on a une part de Dieu. Si tu veux. Non, je parle. Je parle de nous au niveau de la Neshama. Sans le souffle de Dieu, sans la Neshama, on n'existe pas.
Tu as raison, sauf que nous, comme on est de l'autre côté d'Averot.
Je comprends, oui, mais d'accord. Mais quoi qu'il arrive, tu peux pas. On peut avoir cette notion-là que sur l'étincelle, que sur la partie qui... Mais quand même, ça dit qu'il y a toujours une part forcément de matérialité. C'est valable pour n'importe quel homme.
La matérialité du tzaddik ne forme pas un frein à son avancement.
Ouais, exactement.
Notre matérialité nous refait tomber à chaque fois. On fait la tefila le matin, il y a Rosh Hashanah, il y a Kippour, ça nous fait monter. Mm-hmm. Après, nos plaisirs et nos désirs nous font tomber. Chez un tzaddik, sa matérialité ne le fait pas tomber.
Ouais, elle aide à avancer.
Ça n'a rien à voir.
Ouais, parce qu'il n'a pas la notion de plaisir.
C'est-à-dire que même le matériel du tzaddik, il est pour le bien. C'est autre chose, ça n'a rien à voir avec nous.
La futilité, le plaisir la notion, dans l'instantanéité, il l'a pas, ça. Il est dans une autre dimension.
Donc, on peut dire qu'un tzaddik, c'est pas que c'est Dieu. C'est comme il dit là-bas, la définition exacte, c'est Atzmut Umaut Melubash Beguf. L'essence de Dieu qui est habillé dans un corps.
Ah, d'accord. Comme ça, oui, je comprends. L'essence de Dieu qui habite dans un corps, ça me parle mieux.
C'est des choses compliquées. C'est...
Non, mais ça peut, je peux le.
Et une fois, on avait montré ce texte de Chassidut au Rav Ovadia Yosef.
Ouais.
Ce texte-là de Chassidut. Le Rav Ovadia Yosef, il était très choqué. Il avait dit dans son racha. Il fait une racha tous les samedis soirs. Il était très choqué. Il a dit comment je comprends pas, il doit avoir une erreur dans le livre. Comment on peut dire quelque chose comme ça? Comment on peut dire qu'un tzaddik, c'est Dieu?
Ah non, c'est pas ce que tu as dit là.
Non.
L'essence de Dieu habite dans
un corps. Oui, mais l'essence, c'est la même chose. Ça revient au même.
Ah non, c'est pas la même chose. Mais
si, parce
chose.
Que dans langage de la Kabbalah...
Là, tu fais Avodah Zara.
C'est Dieu, moi, ça me... Ouais,
dans langage de la Kabbalah, c'est la même chose. Atzmut Umaut, l'essence de Dieu, c'est Dieu. J'ai seulement mis des mots. J'ai habillé ça dans des mots, c'est tout.
Dieu habillé dans un corps.
Il avait été très choqué. Je sais pas si c'est ce texte qu'on lui a montré.
Ouais.
D'accord. Mais il y a des chassidim qui lui ont expliqué ce que ça voulait dire. Donc là, après, il a expliqué dans sa dracha de la semaine d'après. Il fait une dracha tous les samedis soirs. Parce que c'est vrai que, de premier abord, quand tu prends ce texte comme ça, si tu dis juste le texte comme ça, qu'un tzaddik, c'est l'essence de Dieu habillé dans un corps, tu dis, mais attends, c'est chrétien, ça s'appelle chez nous, ça.
Bah, c'est pour ça, je dis donc...
C'est choquant, c'est très choquant de dire quelque chose comme ça. Et là, on voit qu'en vérité, non, il y a une idée profonde dedans. C'est pas rien. D'accord. Dans les mots. Vekam Doumeli...
Je n'ai pas tout saisi. Mais...
Qu'est-ce que tu n'as pas saisi?
Non, j'ai compris l'idée, mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même une notion que je ne comprends pas.
Quelle notion? Vas-y.
Tu parles de l'essence de Dieu habillé dans un corps, ça me va. Si tu me donnes une autre définition, je...
On dit que le sage se contente d'une allusion.
Comment?
Non,
voilà, c'est tout. Contente-toi d'une allusion.
Un sadique ne peut pas être Dieu. Sage. C'est pas possible. Voilà. Un sadique n'est pas Dieu. Bien sûr qu'il n'est pas Dieu. On ne dit pas que Dieu c'est le sadique et le sadique c'est Dieu.
Voilà. C'est-à-dire
que si je vais voir le tzaddik, d'accord, est-ce que je peux lui dire mon Dieu? Oui ou non? Pourquoi?
Ça va pas, je vais me représenter Dieu dans le matériel.
Mais Abraham, quand il a appelé l'ange, il a appelé Dieu?
C'était des anges.
Et alors?
C'était des anges. Qu'est-ce ils n'avaient pas métarialité.
Attends. Qu'est-ce que ça change?
Ça change beaucoup.
Mais comment tu peux appeler un ange Dieu?
C'est l'aspect d'un ange. Parce que les anges, c'est des envoyés d'Hachem.
Et alors? Un tzadik aussi, c'est un envoyé d'Hachem.
Pas pareil. Il vit pas en...
C'est à peu près la même chose. Quelle différence?
Il vit pas en contact de...
Comment tu peux appeler un ange? C'est le Rambam, ce que je vous dis. Hein, c'est le Nachmanide. Comment tu peux appeler un ange Dieu?
C'est pas Dieu, non plus.
C'est pas Dieu?
Non, on l'appelle pas Dieu.
Si.
Oui, non, mais là...
Littéralement.
Parce que...
Voilà comment il faut comprendre. Celui qui lit ce Ramban, il aurait dit qu'il faut brûler ce texte?
C'est comme on dit... C'est Elohim qu'on dit dans... Quand on a vu dans le Tanya. C'est pas Dieu, c'était les anges.
Adonai, il a dit ici.
Ouais.
Alors? Et pas volé, hein?
Non, mais c'est pas... Pas d'ego, il était à l'ange, il a rien quoi. C'est une...
L'ange? Bien sûr qu'on a un ego.
L'ange?
Bien sûr. Il n'a pas de matérialité, mais il a une spiritualité.
C'est un envoyé de Dieu, je veux dire.
C'est pas Dieu.
Il a une mission.
Mais c'est pas Dieu.
Bah, c'est un instrument.
La réponse est très simple, d'accord? C'est que au moment où le tzaddik est en train de faire la mission d'Akadosh Baruch Hu, c'est un vecteur d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est un vecteur d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est Akadosh Baruch Hu.
C'est un vecteur de Dieu.
D'accord? Donc c'est Akadosh Baruch Hu, c'est une manifestation d'Akadosh Baruch Hu.
Mais je vois pas ce qui est choquant, parce que toi,
d'accord?
Non, mais je
tout est Akadosh Baruch Hu.
Voilà, non, mais je comprends. Quand tu dis c'est un vecteur de Dieu, c'est-à-dire qu'on peut penser que Dieu va s'exprimer à nous.
Regarde,
à nous,
cette table qui est devant moi.
Personne qui allons demander une bracha d'un tzaddik ou autre.
Mais en vérité, c'est choquant, mais en vérité, cette table qui est devant moi, c'est Dieu.
On est d'accord. Oui, non, mais oui, parce qu'on
a dit. Commencé par là.
Mais oui, toute existence, mais c'est évident.
À la table, j'accepte, c'est pas un tzaddik.
Ben, si
à la table, j'accepte. Mais... D'accord, mais oui, mais la table, je peux la même mettre au même niveau que moi. Oui, j'ai compris.
J'ai bloqué là.
Non, mais j'ai compris la démonstration. La table, j'accepte, oui. La table, j'accepte qu'il y ait la cessation, la combinaison de tout. Mais de tout, tout est Dieu. Quand tu dis on touche Dieu ou on chasse tout, c'est
la
Dieu.
Parole, la parole, voilà.
Véhiculée. Après, il ne faut pas tomber dans des idées Dieu préserve chrétiennes.
Ah ouais,
il faut savoir mettre dans les proportions.
Voilà.
D'accord. Bon, mais vous comprenez, maintenant vous commencez à comprendre pourquoi il y a eu, pourquoi il y a eu beaucoup d'angle qui a coulé sur ce texte de Baal Shem Tov. Parce que vous voyez, dès qu'on commence à en parler, on voit tout de suite que c'est une notion qui choque énormément. Ça choque beaucoup. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai entendu ça, ça m'a choqué grave. Il a fallu du temps pour me le comprendre, pour l'expliquer.
Tant que tu n'es pas...
D'accord. Quoi?
Donc on n'est pas trop, choqué là, tu te dis.
Non, ça va, je vous ai préparé. Ah, parce que c'est pas choquant
en
réalité.
Non, c'est l'idée, le sens. Ouais.
D'accord. L'idée n'est pas choquante. De Kamdou, Meli, Shetfisatam, et Namitsa, Dik, Dukalachon. Donc seulement, la seule chose que dit l'Admor Hazaken...
Ce qui peut être choquant, c'est ce qu'on en fait, quoi qu'il arrive. C'est pas l'idée, c'est après, c'est comment on peut dériver sur autre chose. Pour une mauvaise interprétation de la chose, c'est comment on peut...
Oui,
on
par exemple, des gens qui vont te dire, un tzaddik est éternel, il peut pas mourir, il est invincible, comme Dieu.
C'est comment après l'utilisation qu'on fait, comment on peut aller à la dérive. C'est ça le risque.
D'accord. Donc en vérité, quand on a des notions comme ça, il faut faire très attention aux terminologies qu'on utilise. Parce que des fois, avec un mot... Vous voyez, le Baal Shem Tov dit, les gens, ils ont traduit ça en disant que Dieu réside sur le goy, et tout de suite, ça fait un tollé. Alors qu'en vérité, si on avait, au lieu de dire le mot résider, on avait dit, il transite par le goy, d'accord, ça passe beaucoup mieux.
Okay.
Et pourtant, il dit, c'est pratiquement le même mot. Seulement, la manière comment tu formules ta phrase, il faut faire très attention aux terminologies et aux définitions. Surtout quand on a des notions très fines comme ça et très dangereuses. Enfin, très très attention aux terminologies qu'on va dire, aux définitions. Donc, Vekamdou, Melish, et Fisatam, et la Mitzadekdouk à la chose, et la Meikar, et la Mitzadekdouk à Chanam et Kilvotch, et la Memouna, et Machkata Varezal, et Sefar et Gilgulim, Shei Mirtsu, le Chalek, Ben Klipot, Aruchanim, le Ovde Gilulim, Agashmim, et le Chagashmik, Afara Aretz. Alors voilà, là il explique en vérité, il amène une preuve, encore une troisième preuve du Arizal. Le Arizal il dit comme ça. Le Arizal il dit qu'en vérité, les gens veulent faire des différences. Ils veulent dire, il y a un grand mal, il y a un petit mal, il y a un grand bien, il y a un petit bien. Alors, ils veulent te dire, en vérité, il n'y a pas de différence.
Le mal et le bien.
D'accord? Et tu dis, c'est même pas qu'il y a le mal et le bien. En vérité, il y a une seule chose. Il n'y a ni le grand mal, ni le petit mal, ni le grand bien, ni le petit bien. Il y a une seule chose. C'est Dieu, c'est Kadosh Baruch Hu. C'est la Kadosh Baruch Hu pour s'exprimer. Des fois, il passe comme ça, des fois, il passe comme ça. C'est le Arizal qui dit comme ça. C'est ce qu'on a expliqué. Im shutumatumatov de gulim arin nashotel mizivuk. Moi là je saute un peu de kabbalah là. Mais j'ai vu que dans une nouvelle kippot ochni qui moi je que de varizal nimtsa shaochnim tum atam ar bemet tsaribu raav er u iklapshutzo aval lo aleinu klumatam ki im al kidve arizal. Là, en vérité, le Gemara Zaken veut défendre encore un deuxième point le Baal Shem Tov. Il dit, en vérité, ce que je vous dis, c'est pas nouveau. En vérité, c'est pas sur le Baal Shem Tov qu'il faut attaquer. Le Baal Shem Tov n'a rien inventé. Le Baal Shem Tov, de qui l'a amené ça? Il l'a amené ça du Harizal. Qu'est-ce qu'a dit le Harizal? Le Harizal a dit clairement, le Harizal a dit qu'on ne peut pas faire la différence entre le spirituel et le matériel, et le plus bas du matériel. Ce qu'on vient d'expliquer en vérité, que tout ça, c'est la Kadosh Baruch Hu. Donc il dit, le Gemara Zaken, il dit, ceux qui veulent attaquer le Baal Shem Tov, en vérité, c'est pas le Baal Shem Tov qui devrait attaquer. Qui devrait attaquer? Le Harizal. Or, on sait qu'à ce moment-là, même ceux qui attaquaient le Baal Shem Tov, tout le monde tenait du Harizal. Personne ne tenait pas du Harizal. D'accord ? Tout le monde était d'accord avec le Harizal. Seulement, pourquoi il y a eu des nuances ? Parce qu'il y a eu des nuances, notamment entre les écoles lituaniennes et les écoles chassidiques, à savoir jusqu'à combien on doit dire que ce que le Harizal a dit, c'est exact. Parce qu'on sait que le Harizal, il y a Eliyahu Hanavi qui s'est dévoilé à lui. Mais est-ce qu'on peut dire que le Harizal a tout compris ce que Hanavi lui a dit ? Chez les chassidim, on dit oui. On dit que le Harizal, qu'il a dit, c'est le Emet. Dans le monde lituanien de l'époque, aujourd'hui ça a changé. Dans le monde lituanien de l'époque, on disait il y a peut-être des choses que le Harizal a mal compris. D'accord ? Ça c'était notamment la chita du Gaon de Vilna, mais après à la fin de sa vie il a regretté sur ça. Sur ça, et après il était comme le Chassidim. Au début, le Gaon de Vilna il disait qu'il y a des choses que peut-être le Harizal a mal compris. C'est des messages d'Eliyahu Hanavi, peut-être que le Harizal a mal compris, et que nous on a compris différemment. Avec le recul qu'on a, avec etc. Baal Shem Tov disait non. Baal Shem Tov disait ce que le Harizal dit, s'il faut le comprendre à la lettre, c'est ce qu'il a dit. Après, sur ça, avec le temps, ils ont été d'accord les deux sur ça. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Pour dire, la Gemara Zaken, il veut dire en vérité, celui qui a des critiques à faire sur ce que le Baal Shem Tov a dit, en vérité, c'est pas sur Baal Shem Tov qui a une critique, c'est directement sur le Harizal. Donc, il dit, dans les mots, Lo aleinu klunatam, c'est pas sur nous qu'il faut se plaindre. Nous, à savoir le Baal Shem Tov et la Chassidut, qui est mal quitté Harizal, c'est sur le Harizal. Il dit, je sais que celui qui va lire cette lettre, il va dire, oui, on fait ce qu'on veut avec le Harizal, on peut bouger le Harizal comme on veut pour le faire correspondre à ce qu'on a envie que ça corresponde. Il dit, Moi, je suis pas venu ici pour déplacer les paroles du Harizal, je suis simplement venu pour expliquer que ce que le Baal Shem Tov a dit, il n'a rien inventé. Le Baal Shem Tov lui-même l'a dit plusieurs fois, il a dit, je n'invente rien. Je n'ai rien inventé. Je n'ai fait que prendre des textes qui étaient peu connus de tout le monde et je les ai remis au goût du jour. Donc on peut pas avoir de critique sur le Baal Shem Tov. Dis voilà même une notion comme ça, c'est le Harizal. Ki ma niglot lanu vanenu lamin emuna shlema. Je peux m'écrire aller chez Dibir Akatouv, allo atashamaim vetaret animalenu machem. Et il dit en vérité, le Harizal lui aussi n'a rien inventé. Vous suivez la suite, d'accord? Donc il dit d'abord, il a expliqué, il a dit d'abord, on a mal compris ce que le Baal Shem Tov a dit. Parce que l'histoire avec le yiddish, etc., que la terminologie, avec un mot, on peut des fois tout faire sauter. En plus, il a dit, cette notion-là n'est pas nouvelle. Qui c'est qui a dit le premier? Le Harizal. Et tu sais quoi, en vérité, si tu veux attaquer le Harizal, ben sache que le Harizal, lui aussi, il n'a pas inventé. Il y a un texte clair dans Irmiya, dans Jérémie, qui dit comme ça. Il dit, Dieu dit, Allo et Hashamayim et Haaretz animale. Dieu dit, j'emplis le ciel et la terre. Comment tu comprends ce texte? C'est-à-dire que Dieu emplit le ciel et la terre. Quand on dit que, imagine-toi par exemple que je dis, ma personnalité emplit cet endroit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui m'échappe. Oui ou non? Imaginez-vous que je dis que ma personnalité emplit toute cette rue. Ça veut dire que je ne laisse rien passer. Et que, il n'y a aucun détail qui m'échappe. Donc il dit, en mikra, c'est mis des pshuto. Même le Harizal n'a rien inventé. Le fait que le Harizal a dit que même le mal, il est géré par un Kadosh Baruch Hu, et que c'est un Kadosh Baruch Hu qui l'envoie. Voilà le texte a dit. Dieu a dit, j'emplis le ciel et la terre. Et ça veut dire quoi emplir le ciel et la terre? C'est ça? D'accord? Donc avec ça, tout ça, c'était pour défendre ce que le Baal Shem Tov a dit. Vegam hi emuna pshuta bistam kelut Israël. Et en plus, il dit encore plus que ça. Avant même que Jérémie écrive son texte. C'est un plaidoyer, là. Hein, il est en train de défendre le Baal Shem Tov. Vous suivez ou pas? Vous êtes dans les mots? Allez, on va reprendre dans les mots.
Moi, j'ai décroché, là. On en est à Jérémie.
Vous décrochez dans les mots ou dans le sens?
Non, dans la lecture.
Dans le sens, ça va? Vous suivez?
Dans le sens, oui.
Dans le sens, ça va? Oui, d'accord. Donc il dit, déjà, c'est pas sur le Baal Shem Tov qu'il faut attaquer, c'est sûr, le Harizal. Même le Harizal, c'est pas lui qu'il faut attaquer, c'est le passage dans Jérémie. Et même Jérémie! Parce que Jérémie, c'est quand même assez avancé dans l'histoire. Peut-être que Jérémie s'est trompé. Tu vas dire ça. Vegam hi emuna pshuta, avant même Jérémie. C'est une emuna pshuta, une emuna de grand-mère, comme on aurait dit. Mistam kalut Israël. Prends n'importe quelle personne, n'importe quelle grand-mère. D'accord? Il y a un truc qui lui arrive, qu'est-ce qu'elle va dire? Mina shamaim. Bishitout, elle va te le dire. Écoute ce qu'elle vient de te dire, écoute bien, écoute les mots. Mina shamaim, c'est Dieu qui me l'a envoyé.
On a expliqué au début du cours.
D'accord?
Il y a deux semaines. Exactement. Il y a des choses qu'on va dire, c'est à Kadosh Baruch Hu, il y a des choses qu'on va pas être d'accord, c'est à Kadosh Baruch
Hu. Alors justement, mais il te dit, regarde.
Il y en a avec qui tombe en panne.
Oui, il te dit.
Qu'est-ce qu'a dit la grand-mère?
Elle dit, c'est Dieu, Mina shamaim. D'accord? Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent quand ils entendent la grand-mère? Ils vont dire, oui, bon, c'est la grand-mère, elle est un peu simple, bon, c'est... D'accord? Mais il te dit pas du tout. Il te dit, c'est Emouna Pshuta, c'est une Emouna qui existe dans l'âme Israël, avant même que le prophète Jérémie existe. Avant même que Moïse était là. Il y avait une Emouna Pshuta, qu'on savait que tout est à Kadosh Baruch Hu. C'est une Emouna de base. Donc il dit encore une fois. Donc vous voyez, en vérité, on revient à la case départ. En vérité, on est passé à Risa, on était d'accord. Mais finalement, pour te dire ma vérité, tout était là dans la Emouna Pshuta. Tu vas voir mamie, tu vas dire mamie, t'as tout compris. D'accord. Vegami Emouna Pshuta, c'est une Emouna simple, Bistam, Kalout Israël. Bistam, ça veut dire que c'est les gens les plus simples. Les gens les plus simples d'Israël. On me saura, Biadam, Avotem, Magdoshi. Mais pourquoi cette grand-mère, elle pense comme ça? Parce qu'elle l'a reçu comme ça de sa mère et de sa grand-mère. Et pourquoi sa mère et sa grand-mère pensaient comme ça? Parce qu'elle aussi, elle l'a reçu. Et comme ça, tu montes jusqu'à Moshe Rabbeinu et encore avant, jusqu'à Avraham Avinu. Shalchu Bitmimut, les gens de l'époque, ils savent aller Bitmimut avec l'intégrité. L'intégrité, ça veut dire, quand on dit que ça vient de Dieu, point la ligne. On commence pas à dire, mais comment tu peux dire que c'est du mal?
On s'interroge
pas.
Ah,
c'est du mal? Mais comment le mal peut venir de Dieu? Ils ne sont jamais posés ces questions-là. Ils savent que tout ce qui leur arrive, il y en a Kadosh Baruch Hu. Bli l'arkor b'sechel enoshi, sans être là à rechercher avec le cerveau, inyana elokut, à chercher le mal à ma sechel à danket, se dire, mais attends, mais est-ce que ça vient du bien, est-ce que ça vient du mal, est-ce que c'est les clipotes, est-ce que c'est la gdusha? Ah, quand même, on te dit, écoute, tu me laisses pas tranquille avec les histoires. Moi, je sais qu'il y a un patron dans le monde, et qui sait exactement ce qui m'arrive, et que si ça m'est arrivé, c'est qu'il est derrière. Alors, tu me laisses tranquille maintenant avec tes définitions de gdusha, clipotes et trucs comme ça. Moi, tu me laisses tranquille avec tes histoires, moi, j'ai pas le temps pour toi. Moi, ce que je peux te dire, c'est que ça vient de Dieu. C'est-à-dire qu'en vérité, quelque part, c'est une faiblesse le fait qu'on ait utilisé notre cerveau. Et ça, on dit que les gens intelligents, ils ont plus de mal à être heureux que les gens bêtes. C'est vrai ça. Les gens bêtes, ils sont toujours heureux.
Ils se contentent de moins.
Parce que quelqu'un qui est bête, il n'y a pas de problème. Tu lui dis c'est comme non, ça, il est heureux.
Pas seulement l'heureux, mais chéri.
D'accord.
Tu as dit cet exemple, mais avoir la imouna, la véritable imouna.
Oui, bien sûr. D'accord.
Il est heureux.
Tu prends. Enfin, j'ai rien contre les grand-mères, surtout les grand-mères, je bon. Tu vas voir la grand-mère, tu vas lui dire. Tu vas commencer à dire, mais mamie, mais pourquoi si, pourquoi ça veut dire, écoute, ni j'ai compris ta réponse, ni j'ai compris ta question, ni je peux te donner une réponse. Moi, je te dis une chose, j'ai appris ça de ma mère et de ma grand-mère. Et ne cherche pas autre chose, c'est la vérité, c'est comme ça. Elle comprend même pas pour ce qu'elle dit, elle.
Et nous, on a besoin de comprendre.
Nous, on a besoin de comprendre.
On est intelligent.
Nous, on a besoin de comprendre pourquoi. Tout ça pourquoi. Alors, on va passer par le Harizal, par le Baal Shem Tov, par Jérémie, on va faire le tour du monde.
Pour revenir à
mamie. Pour revenir où? Pour revenir à mamie.
Mamie, t'avais raison.
D'accord.
Pour ça, il se rend compte. 5 ans d'études pour ça.
Ah, je confirme, hein.
Inyana et le coup, t'as charou les malama serres à Dunket. Leïda et Rum Lokola arrête. C'est des gens qui savent bipchitout. Non, seulement, attendez, je vais expliquer.
Vous savez, la nuance.
Lorsque l'Admor Hazaken est revenu, il est revenu de chez le Magui de Meserich, contre l'accord de son père. Son père ne voulait pas qu'il aille là-bas. Quand il est revenu, il a dit alors, qu'est-ce que t'as appris mon fils pendant 9 mois que tu étais chez le Magui de Meserich? Alors, il lui a dit, j'ai appris qu'il y a un dieu sur terre.
Ah, Mazal Tov.
Hein? Mazal Tov.
Bah ouais.
Alors, il a appelé la servante. D'accord? Servante, c'était vraiment quelqu'un illettré. C'est pas lire, c'est une juive, mais une illettrée. Une orpheline, une illettrée. Vraiment, elle connaissait rien. Il lui a dit, dis-moi, qui c'est qui gère le monde? Elle a dit, c'est Dieu. Elle a dit, alors, elle a rien appris, elle le sait, tu es là, t'as fait ton malin, t'es parti 9 mois, tu me ramènes ça? D'accord? Alors, il a répondu, il a dit comme ça, il a dit, non, il a dit, c'est pas la même chose. Il a dit, elle le dit, moi je le sais.
C'est pareil.
Ça veut dire qu'elle, elle le dit, c'est comme ça, pour elle, c'est comme ça. Moi, j'ai compris ça. J'ai compris pourquoi il faut arriver là. C'est pas la même chose. D'accord?
J'ai trouvé le chemin.
C'est comme dans les maths. Ça veut dire que si on te dit qu'il y a une formule, prends cette formule, elle marche. Les autres ne marchent pas. Tu acceptes. D'accord? Mais celui qui veut comprendre pourquoi les autres n'ont pas marché, pourquoi les autres formules ne marchent pas et que cette formule marche, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Il a compris. Il a compris pourquoi cette formule, c'est la meilleure. C'est autre chose. D'accord? Donc il dit Rak Shechadashi Mikarov Baoul Achakor. Il dit mais malheureusement ce qui se passe aujourd'hui c'est quoi? C'est que maintenant les gens ils veulent tout comprendre.
D'accord. J'ai vu même le magazine dans les kiosques. Le point, je crois que c'était Dieu existe-t-il.
Alors voilà. Bah, Raki Razo, il dit, les gens aujourd'hui. Donc en vérité, moi, pour moi, c'est.
Qui a raison?
Là, la Bourazaken, il nous remet en place. Hein. Il dit, maintenant les gens, ils sont commencés à dire est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu, est-ce que c'est la Shrina, c'est pas la Shrina. Le gars, il dit, mais attendez, mais dis, mais demande à ta grand-mère. Elle va dire, mais mon fils, c'est bien sûr que c'est comme ça, on le savait déjà. Qu'est-ce que tu veux? Donc il dit, c'est quoi le problème, le piège aujourd'hui? C'est que maintenant, aujourd'hui, les gens, ils sont là en train de faire des hakiras. Tout ce que tu lui dis, il dit, mais est-ce que c'est comme si, est-ce que c'est comme ça? Et ils recherchent, V.I.F. Charles, les Kadem, et la M, et la Sechel, et la Davka, le Piak Damot, le courant de Mikvarizal, Mouchadom, et Kashmiutan. Et ces gens-là, on est obligé d'aller leur chercher des textes du Arizal profond, etc. Mais dis-moi en vérité, c'est déjà écrit dans la Emouna. Alors le rabbi explique comme ça. Il dit qu'en vérité, pourquoi on a dévoilé la Chassidoute aujourd'hui? Parce qu'on s'approche de Mashiach. Plus on s'approche de Mashiach, et quand Mashiach va venir, on va tout comprendre. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous donne un avant-goût à ça. Numéro 1. Numéro 2, on sait aussi que comme on est en galoute et que la galoute est très difficile, tu peux pas aujourd'hui te servir de l'amouna de la grand-mère, de dire c'est comme ça. Vas-y, va raconter ça à ton fils, il va te jeter. T'es obligé de lui trouver des arguments. Donc on a, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné les outils pour ça. Comme le Tania. C'est des outils pour ça, des outils pour se battre contre ça. Ils marchent, des outils qui marchent, qui ont fait leur preuve. Mais on doit savoir, hein, qu'en vérité, ces outils, c'est seulement des outils qui nous permettent de revenir à la case départ.
Les mounas de base.
Les mounas de base. C'est tout. D'accord ?
Il y avait du boulot, hein.
Donc, encore une fois, c'est ces mounas de base qui est que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, même le mal.
Non, mais c'est pas ça, c'est que quand tu es plus attaqué aussi par notre génération, il faut
plus. Il faut comprendre.
Il faut avoir des impôts.
Non, surtout qu'aujourd'hui, il y a la science.
C'est ça.
D'accord, la science qui est beaucoup plus développée qu'avant. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as la science qui est très développée. Et si tu as un message qui ne tient pas la route devant la science, ils ne vont pas te suivre.
Bah, tu en as qui disent que ça n'existe pas. La preuve, nous, on arrive à créer des bébés comme ça. Il y en a beaucoup qui. Il y a beaucoup de médecins.
À partir de quoi?
De clonage.
À partir de quelque chose qui est créé. Quoi,
ouais, ouais. Pareil. On ne maîtrise pas à 100%.
Rien du tout. Hein,
ils prennent des trucs.
On ne maîtrise
pas. Mais pour eux,
ex nihilo, comme il disait la semaine dernière. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de next nihilo?
Mais on ne maîtrise pas à 100%. La preuve, c'est que qu'il y a des gens qui ne peuvent pas tomber enceinte et qui ne pourront jamais tomber enceinte.
Et qui ne croient pas en Dieu à cause de leurs études, de leur expérience quotidienne de ce qu'ils vont.
Il y en a d'autres qui étaient complètement athées.
Bon.
Et d'autres, c'est l'inverse, ouais.
Alors, je finis juste avec ça. Il dit, seulement, Ifchar Levaer Zetav Mirtav. Seulement, le Balchem, le Dmor Hazaken, il dit, je sais que cette notion est tellement fine que je vais avoir du mal à l'expliquer dans une lettre. Là, il a fait une lettre, c'est une lettre qu'on vient de lire ici. Il dit, avec toute la lettre que j'ai fait, je ne suis pas sûr que j'ai bien expliqué. Parce qu'il dit, c'est deux notions qui sont tellement fines qu'il faut les expliquer à l'oral. Parce qu'on a vu, un mot du Baal Shem Tov qui a mal été compris, ça fait un scandale.
Une révolution.
Donc il dit, ces choses-là ne peuvent pas être bien comprises. Pemirtav dans une lettre qui immépé le Ozel Shomaak. Le mieux, quand tu veux expliquer ça à quelqu'un, c'est de ne pas le faire par écrit, de le faire à l'oral. Pourquoi ? Parce que on explique, quand tu expliques quelque chose à quelqu'un à l'oral, tu le vois devant toi. Et tu le ressens tout de suite. Et quand tu vois qu'il y a un truc qui va le choquer, tout de suite tu peux rectifier le tir. Mais quand tu écris une lettre, et que lui il va prendre un mot de cette lettre qu'il va mal comprendre, jamais tu sauras qu'il a mal compris.
T'as pas le feedback,
t'as aucun feedback. Et donc peut-être qu'il va mal comprendre, comme ce qu'on avait avec le Baal Shem Tov. Ils vont aller complètement à côté, ils vont rien comprendre. Alors qu'en vérité c'était une émouna qui est vieille comme le temps. Donc c'est pour ça l'Admor Hazaken il conseille à ses chassidim. Il leur dit, j'ai écrit cette lettre parce qu'il fallait diffuser cette lettre, mais il dit, je vous conseille de ne pas en parler par écrit, de plutôt d'en parler de vive voix. Quelqu'un qui vous pose la question, tu lui dis, écoute, même si quelqu'un t'écrit, tu dis, on va s'expliquer. Tu es de vive voix. Comme ça, tu peux maîtriser la situation et tu peux voir ce qui passe, ce qui passe pas. Le message qui est passé, ce qui n'est pas passé. Par exemple, un mot comme ça, comme la Shrina réside, tout de suite, tu aurais vu que ça aurait choqué, tout de suite, tu aurais rectifié. Et c'est fini. Donc, la Admor Hazaken donne un conseil, il dit, sur les notions fines comme ça, c'est mieux d'éviter l'écrit. D'accord ? D'ailleurs, même, c'est un conseil que je peux vous donner, même dans les choses comme ça, dans les choses très fines, dans les choses dangereuses, il faut éviter l'écrit. C'est mieux toujours de l'oral. Parce que dans l'oral, tu as un feedback. Tu sens tout de suite s'il y a un problème, s'il y a un truc qui n'est pas passé.
Même dans les cours. Hein.
D'accord.
Il y a des notions.
Donc il dit iné, atem, reitem, je finis dans les mots.
On comprend pas.
Asher Asherite, Mivaksha, Shemevinu, Kol, Miklalen, Tachomea, iné, atem, reitem, Mahamar, Echad, Misfarim, Aïdouim, Dougma, Olot, Igam, Kolamamarim, Atumi, Echlaim, Biur, Opirouche, Biur, Etav, Yodechen. Alors ça, là, la Mourazaken s'adresse en vérité dans cette lettre à ceux qui sont contre le chassidisme, ce qu'on appelle les mitnekdim. Il leur dit, vous avez vu qu'un de vos arguments clés que vous aviez, comment le Baal Shem Tov peut dire que Kadosh Baruch Hu, il réside sur le goy, etc. Je vous ai démontré dans cette lettre, avec ça j'ai sauté beaucoup de paragraphes, qu'en vérité ça tient la route. Alors il dit maintenant vous devez comprendre que toutes les autres questions que vous avez, il y a des réponses. Si on veut trouver la réponse, on a la réponse. D'accord ? Donc il leur demande, il leur dit je vous en prie, si vous avez des questions, posez-les. Il y a des réponses aux questions. Ça n'a rien de dire j'ai une question, ça veut dire que c'est du pipeau, c'est du bluff, faut tout jeter. D'accord ? Et bien, mettre ce qu'on lit dans l'histoire, on lit que suite à la diffusion de cette lettre, la marloquette s'est beaucoup calmée. Parce que dans cette lettre, tu vois, il a mis les cartes sur table. Il dit voilà, il dit regardez, on va prendre un élément type, tac, 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 tac. Il dit avec ça, j'aurais aimé vous l'expliquer de vive voix, mais vous n'êtes pas là. Tac, tac, tac. Il dit voilà, il dit regardez, vous avez vu un élément que vous aviez. Je vous ai expliqué. Alors, venez, on va s'expliquer. Peut-être qu'on n'est pas d'accord, mais je vais vous expliquer que ce que je dis, ça tient la route. T'as le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais de dire que c'est des coffres, tu peux pas dire ça. Je suis dans les mots. Donc, ach le ikavu mamalata makol memirtav, kiim lachak vedam merouba, ve iefchan vishoufen, rakin tirtsu, shirhu mikam echad miyuchot shebaeda. Donc, il leur demande, il leur dit, je vous en prie, si vous voulez discuter, envoyez une personne, quelqu'un de.
Un représentant.
Ou PLP à taperbo. Et je parlerai avec lui, comme on dit, bouche à bouche, ça veut dire direct. Imirta Hashem. Et bien, c'est ce qui s'est passé après. Il y a eu après un grand débat entre les rabbinim qui s'est passé dans la ville de Slosk, dans la ville de Vitebsk, pardon. Un grand débat. Il y avait l'Ed Morazaken, et il y avait de mémoire là-bas, on racontait qu'il y avait 150 rabbinim. Un grand débat. Et c'est un grand débat, on était conscient de la gravité de ce débat. D'ailleurs, tous les rabbinim qui ont participé à ce débat ont jeûné ce jour-là.
Ah bon ?
D'accord ? Et l'Ed Morazaken a dit, je veux qu'on pose toutes les questions qu'on a. Et ils ont posé toutes les questions qu'ils avaient. Et dans l'histoire de ce débat, on raconte que l'Admor Hazaken, quand ils ont posé toutes les questions, il a commencé à chanter. Et on raconte que quand il a chanté, avec son nigoun, toutes les questions ont été répondues dans les têtes de tout le monde. Et qu'il y a des gens, tellement ils ont eu peur de ça, ils sont sauvés. L'Admor Hazaken, hein, c'est chaud hein, ce que je vous dis. C'est vrai ce qu'on dit. Hein. Ça n'a pas été raconté par la chassidine ce que je vous dis. Parce que vous aurez pu dire, bon, ils ont raconté. C'est pas raconté par le chassidim, ça. Ils ont eu peur, ils ont dit, c'est pas possible, il y a du mal dedans, c'est trop dangereux.
Il s'est mis à chanter, il a chanté quoi ?
Il s'est mis à chanter un nigoun. D'accord ? Après, il aura répondu. Après,
t'as pas fait le télé ?
Hein ?
Tu viens pas au.
Après, il a expliqué. D'accord ? Il s'est répondu à leurs questions, après, il est rentré dans les détails et dit, voilà, ta 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 ta. Pour dire quoi ? Pour dire qu'en vérité, il faut pas rester dans la marloquette. Il ne faut pas rester dans la marloquette. Il faut mettre les choses carte sur table. D'accord ? Et que des fois, quand c'est PLP, quand c'est une confrontation face à face, automatiquement, on voit ce qui va et ce qui ne va pas. D'accord ? Alors que quand c'est un texto, quand c'est une lettre, quand c'est un email, tu ne sais pas comment l'autre va comprendre ce que tu as écrit. Tu n'as aucune idée de comment il va comprendre. Ça peut mal passer. Donc c'est mieux toujours dans les sujets sensibles sur ça d'avoir une confrontation directe, de crever l'abcès. Donc, la conclusion pour aujourd'hui, on a fini avec ça la lettre 25. Ce qu'on a compris, c'est quoi ? Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. En vérité, la grand-mère le savait déjà. Voilà, donc on pourrait titrer le cours d'aujourd'hui. Retour à la case départ. D'accord ? La grand-mère le savait déjà.
La grand-mère sait faire un bon café, la grand-mère sait faire les bonnes explications.
Mais, bon, on a quand même appris que, est-ce qu'il faut s'énerver ? Qu'est-ce qu'on a dit ?
Faut peser.
Si c'est pas pour une mitzvah ou une avera, assaut. Si c'est pour une mitzvah ou pour une avera, qu'est-ce qu'on a dit ?
Ça dépend si
on pense qu'on peut avoir une influence ou pas. On essaye. À un moment, tu vois que tu n'as plus d'impact, arrête-toi. Allez, stop. Faut ignorer dans ce cas-là. En vérité, il faut te dire que Kadosh Baruch Hu est en train de te pousser à chercher à te dépasser. Mais dans tous les cas, on doit savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais il a quand même donné un conseil à la fin, que quand on analyse des notions fines comme ça, il faut, numéro un, faire très attention aux définitions et aux terminologies qu'on utilise, parce que très rapidement, ça peut déraper, ça peut être mal compris, comme on a vu, d'accord ? Et numéro deux, il dit, chose comme ça, c'est mieux de discuter en tête-à-tête, d'accord ? Et donc il dit, de la même manière que j'ai pu expliquer ça, on peut expliquer toutes les questions, ce que vous avez.
Donc on comprend mieux la notion, pourquoi on dit, c'est comme faire à Bodhazara.
Bien sûr. Ah oui, maintenant on comprend.
Mais oui.
On comprend que finalement, le fait de s'énerver, ça veut dire que tu n'acceptes pas que ça vienne d'Akadosh Baruch Hu, d'accord ? Et ça veut dire qu'en vérité, tu penses que ça vient d'une autre force. Donc c'est un
bazar. Tu renies ta grand-mère.
Voilà. C'est ça.
Voilà.